Alors, les États-Unis, la guerre de sécession, pourquoi l'idée de parler de ce sujet? Ben, pour une raison très simple, c'est que un ami qui connaît bien le sujet m'en a parlé et m'a donné l'envie d'aller voir d'un peu plus près de quoi y retourner. Et puis on peut se dire, bon, mais finalement, mais est-ce que c'est pas loin de nous, géographiquement et historiquement? Historiquement, pas tellement, un siècle et demi. L'histoire des États-Unis est une histoire récente. Géographiquement, au jour d'aujourd'hui, la planète est un petit univers. Et puis politiquement, je dirais que c'est une actualité brûlante, surtout pour les Suisses. Surtout pour les Suisses, parce que, bien après que ma conférence ait été préparée, et ça, c'est pas plus tard que ce lundi, j'ai trouvé dans le même journal, la même feuille de chou, des nouvelles qui mettent la Suisse et les États-Unis, je dirais, en face, presque, puisque il est question d'une campagne de publicité orchestrée par les Juifs. Bon, ma femme souvent me reproche, dit, écoute, tu parles tous les ans des Juifs, des francs-maçons, etc. Et pourtant, ce soir, elle est venue, malgré tout, mais bon. Alors, j'y suis pour rien. C'est une campagne orchestrée par les Juifs, puisque c'est la Ligue anti-diffamation. C'est comme ça que ça s'appelle. Et qui diffame la Suisse. Qui diffame la Suisse, puisqu'on accuse la Confédération helvétique, à la suite d'un contrat gazier signé avec l'Iran, de financer les lanceurs de missiles du Hezbollah, les attaquants suicides du Hamas à Gaza, le programme d'armement nucléaire iranien, les groupes terroristes en Europe et partout dans le monde. Je n'invente pas, je lis. Qu'est-ce que ça a à voir avec les États-Unis? Eh bien, en général, quand les Juifs veulent mordre, les États-Unis aboient. Et donc, je lis que les États-Unis ont déjà demandé à voir les détails du contrat gazier. Et le président du Congrès juif mondial a déclaré que Mme Calmy-Rey avait ridiculisé l'ONU en Iran. Je pense que seront tous d'accord ici pour considérer qu'une fois de plus, le consortium juif, tellement hystérique quant au monde arabe qui l'entoure, fait n'importe quoi, on en a une preuve supplémentaire. Je ne sais pas trop comment le gouvernement suisse va réagir, mais c'est un pur scandale sur le plan de la diplomatie de voir comme ça agresser un pays avec des mensonges, puisque tout ça, ce sont des mensonges, notamment le programme d'armement nucléaire iranien, dont on sait parfaitement qu'il n'y a pas de programme d'armement nucléaire iranien. Il y a un programme iranien nucléaire, mais pas d'armement. On a envoyé des experts pour aller vérifier sur place. Ce mensonge propagé par le consortium juif a été mis à bas, peut-être trop tôt, avant qu'ils commencent à envoyer des bombes. L'Iran a pour l'instant eu plus de chance que l'Irak. Mais ce n'est visiblement que partie remise, d'après ce que nous disent nos États-Uniens dirigeants. Et dans le même journal, c'est plus amusant et moins grave, mais c'est amusant, il y a une publicité pour la vodka qui contrarie les Américains, paraît-il. Parce qu'elle montre l'état des États-Unis en 1830. Et en 1830, c'était exactement ça que nous voyons. C'est-à-dire que c'est l'état des États-Unis au moment de la guerre de sécession, et notamment vous avez toute cette partie ici qui appartient au Mexique, qui va être conquise ou achetée au Mexique plus tard, mais c'est un énorme morceau des États-Unis. Je pense que si on montrait la Suisse avant la Confédération ou la France de Clovis, pour les besoins d'une publicité, personne n'y trouverait à redire, du moment que la publicité n'est pas bien sûr attentatoire à la morale. Ben, les Américains, ils ne sont pas contents. Alors, je vais vous faire diffuser ces documents. Vous les trouverez en tête de ce livre sur la Nouvelle-Orléans, parce que dans ce livre sur la Nouvelle-Orléans, vous verrez quelques images d'une civilisation qui a disparu. C'est la civilisation du Sud. Et en particulier, à la Nouvelle-Orléans, vous verrez, en feuilletant, vous verrez qu'il y a la statue de Jeanne d'Arc, et également celle du général Lee. Et bien que vaincu, on n'a pas déboulonné sa statue. C'est quand même intéressant de le savoir. Je vous passe ça, vous pourrez le feuilleter. Mais c'est en anglais, donc si vous voulez le lire, ça vous distraira si la conférence est trop ennuyeuse. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène qui a suscité de la presse, la case de l'oncle Tom, best-seller universel écrit par Madame Becher-Stroh universelle, parce que si vous faites la comparaison du tirage du livre par rapport à la population du globe, aucun livre n'a jamais atteint, comparativement parlant, un tel tirage. Aujourd'hui, la case de l'oncle Tom reste, c'est évidemment une histoire anti-esclavagiste, hein, mais ça reste un best-seller mondial qui n'a pas encore été, qui n'a pas été égalé, mais enfin, dont s'est rapproché un autre livre sur le même sujet, quoique beaucoup plus romantique, autant en emporte le vent. Donc, nous sommes dans des sujets intéressants, il n'y a pas de doute, et d'actualité, qui sont ces Américains finalement. Parce que c'est un petit peu la question qui reçoit une réponse partielle, parce qu'il y a évidemment, depuis la fin de la guerre de sécession, d'autres phénomènes, notamment le Texas, qui va jouer un rôle un petit peu à part, qui ne nous intéressera pas aujourd'hui, mais plus tard, on va trouver du pétrole au Texas. À cause du Texas, le président Kennedy sera assassiné. Aujourd'hui, des présidents démocrates viennent du Texas, sont financés par le Texas, et c'est un état de poids, effectivement, dans les États-Unis. Mais ça, c'est une parenthèse qui ne nous concernera pas aujourd'hui. Comme j'étais tout à fait, évidemment, ignorant, vous le comprenez, sur les États-Unis, il a fallu que j'aille trouver une source fiable. Je l'ai trouvé à la médiathèque du Valais. C'est le livre de M. James McPherson, que j'avais préparé la conférence. J'ai voulu le reprendre, il n'y était plus. Ce n'est que la photocopie de la couverture, mais évidemment, je vous invite, si ça vous intéresse à creuser le sujet, d'aller le lire. Ceci dit, le livre couvre toute la guerre de sécession. C'est énorme, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, historiquement parlant et politiquement parlant, ce sont les origines de la guerre de sécession et son déclenchement. Après, les batailles perdues, gagnées, tout ça est moins important. Et je pense, sans avoir évidemment trop d'éléments de comparaison, mais je pense que M. McPherson a fait un travail extrêmement sérieux et dont, vous allez voir, on pourra adopter les conclusions raisonnablement et intellectuellement, sans autre, comme on dit. D'emblée, M. McPherson explique que la guerre va à l'origine opposer les Américains du Nord, matérialistes et égalitaristes. Ce n'est pas lui qui l'invente, c'est la doctrine des États-Unis, c'est la doctrine des pères des États-Unis, de la Constitution américaine, de Benjamin Franklin, etc., à ceux du Sud, qui sont aristocratiques, nous dit l'auteur. Ce n'est pas de moi, d'ailleurs, si je vous fais une réflexion personnelle, je vous le dirai. On pourrait le croire quelquefois, à voir les éléments que nous donne M. McPherson. Mais tout est de M. McPherson, j'ai dû résumer, je vous lirai quelques passages in extenso. Et donc, il nous donne bien cet antagonisme dès le départ. Le motif pris de l'esclavage ne surgira qu'au bout d'un an, au bout d'un an de tension. L'esclavage, en effet, n'était pas anticonstitutionnel aux États-Unis, puisqu'il était inscrit dans la Constitution. En dessous de cette ligne, on pouvait être esclavagiste, en dessous de cette ligne, on ne l'était pas. Mais ça, c'était valable pour les États, parce que, évidemment, de part et d'autre de cette ligne, les gens circulaient. C'est ainsi qu'évidemment, nombre d'esclavagistes les plus durs venaient du Nord, parce qu'ils avaient estimé la chose plus rentable, tout simplement. Et donc, d'emblée également, dans son introduction, l'auteur nous explique que les abolitionnistes se sont révélés bien plus racistes que les esclavagistes. En effet, si tous, au fond d'eux-mêmes, étaient persuadés de la supériorité de la race blanche, les sudistes ne craignaient point les noirs en raison de leur statut inférieur, protecteur des blancs. Les nordistes, ayant voulu l'égalité, en redoutaient les conséquences. Et donc, son livre commence par une présentation des États-Unis au milieu du XIXe siècle. La discussion était alors de nature économique. Chaque camp prétendait que son système assurait le meilleur rendement. Les sudistes disaient: nous, on arrive à faire des récoltes extraordinaires et des profits extraordinaires avec la récolte de coton qui est assurée par les esclaves. Les nordistes disaient: nous, grâce à nos filatures, grâce à nos industries, grâce à nos travailleurs libres et salariés, nous arrivons à faire bien mieux que vous. En gros, c'était ça la discussion. Et le parti politique, cette mouvance politique nordiste était appelée Whig. C'était les Whig du Nord. Donc ils prétendaient, ils assuraient que le salariat permettait le développement du capitalisme. Leurs adversaires prétendaient que le système des salaires et la division du travail dressaient les employeurs et les salariés les uns contre les autres. C'est une théorie d'ailleurs que l'on retrouve dans le droit moderne, que les marxistes ont également poussé à leur apogée, hein, le capital et le travail, l'opposition, etc. Eh bien, les sudistes l'avaient inventé, semble-t-il, indépendamment de Marx, mais sans doute dans un autre but. Pour le Nord, le banquier et l'entrepreneur créent des richesses autant que l'agriculteur du Sud. Les nordistes mettent en place le rêve américain que va personnaliser Abraham Lincoln, que l'on va retrouver un petit peu en fin de course dans notre exposé. Le rêve américain, c'est l'ouvrier qui loge dans une cabane de rondin, la log cabin, et qui devient président par ses seules vertus. Lors de sa propagande électorale, Abraham Lincoln sortait deux pieux en bois qu'il exhibait pour montrer ses origines qui venaient effectivement de ce milieu ouvrier du bois. Quel était le milieu particulièrement séduit par ces raisonnements nordistes? Les employés de bureau protestants. Alors bon, je parle des juifs, des protestants, des américains, de beaucoup de monde. Hein. Ne nous formalisons pas, je suis en train là de citer exactement notre auteur. Et là il s'agit de questions statistiques, et d'ailleurs nul n'ignore qu'effectivement les protestants sont importants dans le nord des États-Unis. Le milieu particulièrement réfractaire, je cite aussi, et je ne vais pas vous étonner, les conservateurs habituels, nous dit M. Macpherson, c'est-à-dire les catholiques, les artisans, les petits fermiers. Bon, vous voyez, l'antagonisme ne repose pas sur des esclavagistes et anti-esclavagistes, il repose sur un terreau économique. Le départ des femmes vers les entreprises, vous voyez, je parle aussi des femmes, modifie la structure de la famille. Jusque-là, la femme et l'homme sont associés dans la ferme, dans l'exploitation de coton. Ils sont là tous les deux. Coproducteur dans un milieu rural, l'entreprise va créer une sphère de travail indépendante et la femme, qui va pouvoir fonder un foyer, va y régner plus qu'auparavant. Affaiblissement du patriarcat. Peut-être savez-vous, je ne saurais pas vous dire qui, mais il y a un auteur américain, en parlant des femmes de cette époque postérieure, qui les a traitées de race de vipères. Effectivement, c'est une explication originale, peut-être propre d'ailleurs aux États-Unis, mais qui se relie tout de suite au milieu protestant. Les femmes ne vont pas tarder à faire déborder leur sphère d'influence à l'extérieur du foyer. C'est ce qu'on appellera le second grand réveil, renouveau évangélique très féminin. Vous avez des images certainement qui vous viennent à l'esprit. Cela va s'accompagner d'un idéal abolitionniste. Nous sommes à 1830, et effectivement, toutes ces dames qui, surtout dans le milieu protestant, où j'allais dire le prêche n'est pas réservé à l'homme, où la femme peut avoir un rôle bien plus important que dans le milieu catholique, ce renouveau évangélique va trouver appui sur cet idéal abolitionniste. Les thèses anti-esclavagistes prospèrent grâce à l'éclatement des familles d'esclaves. Ça, c'est un vrai problème. Un quart des familles environ, c'est-à-dire que les esclaves, étant considérés comme des biens patrimoniaux, sont vendus, dispersés au gré de la volonté des propriétaires. Alors bien sûr, tous les propriétaires ne sont pas de cette eau-là. Ceux que l'on découvre dans Autant n'importe le vent ne font pas partie de ces gens qui vont fractionner les familles d'esclaves. Mais il y en a, et cela concerne un quart, non pas des propriétaires, mais des esclaves. Et c'est beaucoup, et c'est ça qui est inadmissible. Bon, d'un point de vue purement catholique, l'esclavage n'est pas admissible de quelque façon que l'on se place. Mais là, ici, on ne va pas se placer de ce point de vue, on est sur un plan historique. Il y avait des catholiques qui, semble-t-il, vivaient avec ça, peu importe. Nous examinons les choses d'un point de vue historique. En 1839, un premier livre de Theodore Weld est publié contre l'esclavage, mais qui n'aura pas le retentissement de celui de Madame Bicher-Straw. Malgré le succès économique éclatant du Sud, la récolte de coton double tous les 10 ans, effectivement, les États-Unis produisent les 3/5 du coton mondial. Les frictions entre États du Nord et du Sud sont claires en 1850. Donc, il faut bien qu'on se mette en tête qu'on a affaire à deux frères ennemis sur le plan économique. Deux frères politiquement parlant, géographiquement parlant, économiquement parlant aussi, parce que si l'on produit du coton dans le Sud, on le file dans le Nord, dans les filatures. Et donc, nous sommes dépendants les uns des autres. Le Nord, parce qu'on a besoin du produit du Sud, le Sud, parce que l'on vend son produit au Nord. C'est clair. Malgré ça, on ne s'aime pas parce qu'on n'a pas la même civilisation. Par ailleurs, le vecteur de développement, ça, je ne vous ferai rien découvrir, semble désormais l'Ouest. Ici, go West. Il y a des États, déjà. Nous ne sommes pas ici que dans le territoire mexicain ou chez les Indiens. Il y a d'autres États. Mais des États qui n'ont pas encore réunis, qui ne se sont pas encore réunis à l'Union, aux États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que les premiers États, les 13 États fondateurs sont ici. Peu à peu, il y a eu des agglomérats, la Louisiane qui a été vendue par la France aux États-Unis, enfin, etc., etc. Bon. Mais pour les Américains, il est évident qu'on veut se développer vers des territoires plus vierges, État ou pas État. C'est effectivement la ruée vers l'Ouest. Passons sur l'épisode de l'installation des Mormons dans le lac Salé, sur l'élimination des Indiens sacrifiés à l'expansion des colons. Tout cela est conçu comme une destinée manifeste. Ça, vous en avez peut-être moins entendu parler. Moi, je l'ai découvert dans le livre de M. MacPherson. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que les Américains fonctionnent toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'était leur destinée manifeste de couvrir l'ensemble de ce territoire. Et que rien ne devait s'opposer à cette destinée manifeste. Effectivement, à partir du moment où l'on est convaincu que sa destinée, que la destinée de ce peuple est de couvrir l'ensemble de ce territoire, d'un océan à l'autre, il n'y a aucune raison d'écouter l'autre. Mais aujourd'hui, on a toujours affaire avec les États-Unis à cette même mentalité, qu'il s'agisse de la conquête de l'espace ou bien tout simplement de la police du monde. Et nous en avons un exemple supplémentaire dans l'actualité de ces derniers jours. Il y a d'autres intérêts, il y a évidemment beaucoup de choses qui jouent là derrière, mais l'Américain moyen, l'Américain de base, lui, il va adhérer à cela, même si à la base il y a les Juifs qui poussent, il y a des lobbies, parce que pour lui c'est la destinée manifeste. La destinée manifeste de l'Amérique, c'est d'être le gendarme du monde, c'est d'être celui qui va gouverner la planète. Et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les brouilles, les tensions qui vont effectivement surgir à propos de la guerre du Mexique. James Polk est élu président des États-Unis en 1844. Il fait la guerre au Mexique pour lui arracher le Texas. Les Whigs, c'est-à-dire les Américains du Nord, qu'on appellera plus commodément les Yankees, s'opposent à la guerre avec Abraham Lincoln en tête. En effet, si les démocrates, c'est plutôt le Sud, si les démocrates voyaient l'expansion de leur idéal dans l'espace, c'est-à-dire vers l'Ouest, les Whigs la voyaient dans le temps et sans violence, conformément à leur origine évangélique. Profitant du déclenchement de la guerre, la Californie se révolte et s'érige en république indépendante, ce qui lui permet rapidement de s'annexer aux États-Unis. Mais cela va accroître le nombre des États esclavagistes. En effet, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, on est État esclavagiste ou non esclavagiste, selon la Constitution américaine. Pour contrer le Sud, David Wilmot, qui est représentant de la Pennsylvanie, va proposer un amendement stipulant que les territoires achetés au Mexique, et donc ça va regrouper une grande partie de territoires que vous avez d'ailleurs dessiné en vert sur la petite carte de la vodka que vous avez sous les yeux, ou qui circule. Donc il propose, ce monsieur Wilmot, ce sénateur Wilmot, que les territoires achetés au Mexique ne soient pas esclavagistes. Il agissait pour un groupe de démocrates qui en avait assez de voir le Sud dominer leur parti. Ainsi se produit une première ligne de partage géographique. Ce n'est plus politiquement démocrate, le Sud, en gros, contre les Whigs, en gros, le Nord, mais très en gros. Mais c'est désormais le Nord contre le Sud, à cause de ce projet d'amendement mexicain. Le sénateur Calhoun va avertir que le maintien de cet amendement, de ce projet, pourrait déclencher une guerre civile. Déjà, on joue assez cartes sur table, vous verrez qu'on est très carré. Les débats au Congrès, là-bas, ne se passent pas du tout, et on en aura quelques illustrations pittoresques, comme aujourd'hui les choses se passent, mais au fond, ça permettait de régler certains problèmes. S'approchent les élections de 1848. Les Whigs du Sud, donc, des nordistes d'esprit, mais qui habitent au Sud, on commence à se diffuser au-delà de la frontière immatérielle. Les Whigs du Sud vont favoriser la candidature de Taylor, qui est ancien combattant et garant de l'esclavage, puisqu'il est propriétaire d'une plantation avec plus de 100 esclaves. Et au moment de la convention, ils vont l'emporter au détriment de Clay, qui lui est d'esprit nordiste. C'est trop fort pour les Whigs du Nord, le schisme éclate. Ils vont fonder un autre parti qui va s'appeler les Conscience Whigs. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Il faut l'entendre en américain. Les Conscience Whigs désertent le parti. Leur but est de créer alors un parti anti-esclavagiste. On commence à voir se dessiner cette fraction autour de l'esclavage. Lors de la convention de notre parti à Buffalo, les Free Soilers, on va dire les propriétaires libres, trois partis vont réussir leur fusion en considérant un programme commun fondé sur l'abolition de l'esclavage et la liberté. Les brûleurs de granges, les Conscience Whigs et le Parti de la Liberté, ce dernier qui était jusqu'alors microscopique. Donc, vous voyez une union politique qui se forme sur l'abolition de l'esclavage. Cependant, Taylor est élu. Taylor, c'est celui qui est propriétaire d'une plantation avec plus de 100 esclaves. Taylor est élu, mais les nordistes ne sont pas mécontents, car la campagne a été axée sur l'esclavage, donc pour eux c'est déjà une satisfaction d'avoir fait porter le débat politique sur l'esclavage, et d'autre part, Taylor paraît sensible au conseil abolitionniste de son entourage. Effectivement, le président Taylor n'était pas un esclavagiste farouche, c'était sans doute pas de ceux qui fractionnaient les familles d'esclaves. C'était plutôt, comme Lincoln, mais du côté esclavagiste, quelqu'un qui pensait que, et ils avaient raison, que peu à peu, l'esclavage devait disparaître tout doucement, tranquillement, avec le progrès en quelque sorte, comme un mal nécessaire qu'il fallait encore tolérer, mais qui aurait une fin assez proche. Donc, les Américains sont satisfaits, tous, de tous côtés, par l'élection de Taylor. En 1849, c'est la ruée vers l'or de Californie. Taylor veut faire admettre la Californie et le Nouveau-Mexique comme État de l'Union, État libre, où l'esclavage serait ipso facto interdit selon la loi mexicaine. Parce qu'au Mexique, effectivement, l'esclavage n'est pas reconnu. Donc, provenant du Mexique, on pourrait effectivement les faire échapper à l'esclavage. Vous vous en doutez, bien entendu, les sudistes ne sont pas d'accord. Et en fait, chaque fois que la question va se poser d'un nouvel État, il va y avoir un affrontement nord contre sud. Mais malgré cette opposition farouche des sudistes, Taylor ne fléchit pas. Et à ce moment-là, le Congrès et le Sénat s'enflamment. Les nordistes et les sudistes en viennent aux mains. Les sudistes menacent déjà de sécession. Taylor pense qu'il bluffe, il les menace. En 1849, les États sudistes se réunissent à Jackson, puis tiennent une convention à Nashville. Après de longs débats au Sénat, un compromis va être établi en 1850. On est encore raisonnable. Mais ce compromis va seulement différer la crise. Le président Taylor meurt le 9 juillet 1850. Nouveau président, c'est Millard Fillmore. C'est un Whig de New York, donc du Nord. Il est hostile au compromis. Mais il ne souhaite pas brutaliser le Sud et il va voir le compromis reprendre forme et être signé grâce à l'intervention d'un dénommé Douglas qui ne ménagera pas ses efforts. Nous reverrons Douglas tout à l'heure. La crise semble résolue. Quel est le contenu de ce compromis? Alors évidemment, là nous sommes évidemment dans la politique des États-Unis, c'est un petit peu technique, on ne peut pas faire l'économie de ces explications parce que sinon on ne peut pas comprendre l'enchaînement des événements. Le compromis prévoit l'admission de la Californie dans l'Union, l'interdiction du commerce d'esclaves dans le district de Columbia, le versement de 10 millions de dollars au Texas pour régler la question de la frontière avec le Nouveau-Mexique, des lois plus sévères sur les esclaves fugitifs, aucune restriction en matière d'esclavage entre l'Utah et le Nouveau-Mexique. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais il y a une de ces dispositions qui va créer, qui va mettre le feu aux poudres progressivement, c'est la loi plus sévère sur les esclaves fugitifs. Cette explosion a eu pour amorce la loi de 1850 sur les esclaves fugitifs, qui avait du reste un caractère exceptionnel, dans la mesure où elle donnait au pouvoir fédéral une compétence générale qui jusque-là n'existait pas, le Congrès respectant la souveraineté des États. On est un peu habitué aux fédéraux. Dans la prohibition, il y a les fédéraux qui arrivent, etc. Ben, les policiers fédéraux, ce sont ceux qui ont compétence pour traverser les frontières des États et pour aller traquer le délinquant là où il se trouve. Et le problème, c'est que cette loi qui a donné compétence donc aux fédéraux, ça a été pour traquer les esclaves fugitifs. Et donc les policiers fédéraux ont eu la possibilité d'aller chercher les esclaves à travers la frontière des États, y compris les États qui n'étaient pas esclavagistes, chose qui était absolument inédite, puisque les esclaves qui arrivaient à passer au Mexique, ou bien dans les États qui étaient anti-esclavagistes, n'étaient plus esclaves et ne pouvaient plus, en principe, être soumis à l'esclavage dans ces États, évidemment, puisque ces États ne reconnaissaient pas l'esclavage. Seulement voilà, dans cette concession du compromis, on admet qu'on puisse aller justement chercher les esclaves de façon transfrontalière. Transcrite dans la Constitution, l'article 4, section 2, précisait que toute personne tenue au service ou au travail obligatoire dans un État qui s'échapperait dans un autre serait livrée sur la demande de la partie à laquelle le service ou travail pourrait être dû. Autrement dit, le propriétaire pouvait demander aux policiers fédéraux d'aller chercher les esclaves fugitifs. Cette loi ne prévoyait pour le fugitif ni la protection de l'habeas corpus, ni le droit de comparaître devant un jury, ni celui de témoigner en sa propre faveur. Autrement dit, l'esclave avait très peu de moyens de se défendre. C'était la porte ouverte aux chasseurs d'esclaves qui avaient ainsi la possibilité d'aller récupérer les esclaves ensuite sur tout le territoire des États-Unis. Certains ont essayé de promulguer des lois spéciales. Bon, les États ont essayé de se défendre, de réagir, les États anti-esclavagistes, pour contrer la loi de 1850, mais ces lois furent déclarées contraires à la Constitution, ce qui me paraît évident. Certains États, certaines villes vont mettre en place une résistance plus ou moins organisée pour empêcher les chasseurs d'esclaves d'attraper leur gibier. En particulier, à Boston, de nombreuses affaires célèbres vont éclater. Les anecdotes méritent d'être rappelées in extenso, et donc je vais vous en faire lecture pour vous montrer dans quelle ambiance, effectivement, on évoluait. Cette loi ne comportait aucune clause de prescription. Vous savez que le législateur, et on en discute actuellement d'ailleurs, je crois en France, pour les crimes sur les enfants, le législateur prévoit des prescriptions. 1 an, 5 ans, 10 ans. Bon, certains crimes, au bout de 10 ans, on ne peut plus les poursuivre. Il a fallu la loi sur les crimes contre l'humanité pour prévoir qu'il n'y avait pas de prescription et qu'on pouvait poursuivre ces crimes au-delà de toute période de temps. Mais bon, là, cette loi sur la récupération des esclaves fugitifs, pas de prescription. Un esclave qui était parti depuis 20 ans, on pouvait aller le chercher. Vous voyez le tableau. En septembre 1850, des marshals fédéraux arrêtent un porteur noir qui vivait à New York depuis 3 ans et le traînèrent devant un commissaire qui, malgré les instances du prisonnier, refuse de faire noter au procès-verbal que sa mère était une noire libre et le renvoya chez le propriétaire qui le réclamait à Baltimore. Quelques mois plus tard, des chasseurs d'esclaves s'emparèrent d'un prospère tailleur noir qui habitait depuis de nombreuses années Poughkeepsie, une petite ville située sur la Hudson River. Donc on est très haut, hein, la Hudson River, à une centaine de kilomètres au nord de New York, et l'amenèrent en Caroline du Sud. En février 1851, dans le sud de l'Indiana, des agents fédéraux capturèrent un noir, sous les yeux horrifiés de sa femme et de ses enfants, pour le rendre à un propriétaire qui prétendait que l'homme s'était enfui 19 ans auparavant. Un citoyen du Maryland assura qu'une noire de Philadelphie, qu'il déclara en fuite depuis 22 ans, lui appartenait et il n'hésita pas à revendiquer en prime ses 6 enfants, tous nés à Philadelphie. Ce fut l'un des rares cas où le commissaire choisit de remettre l'esclave en liberté. Quant aux tailleurs de Poughkeepsie et aux porteurs de New York, des amis noirs et blancs se cotisèrent pour acheter leur liberté. Il n'en reste pas moins qu'il y eut beaucoup plus de noirs renvoyés dans le sud que laissés libres dans le nord. Quelques évasions spectaculaires eurent lieu au nez et à la barbe des chasseurs d'esclaves. À Boston vivaient un jeune couple, William et Helen Craft, dont la fuite initiée lors de Georgie, 2 ans auparavant, avait fait les gros titres de la presse anti-esclavagiste. Ayant le teint assez clair pour se faire passer pour une blanche, Helen s'était coupée les cheveux, avait revêtu des vêtements masculins et s'était doublement métamorphosée en un blanc fortuné mais souffreteux qui partait se faire soigner dans le Nord, accompagné par son serviteur, lequel, bien sûr, n'était autre que William. Ils avaient ainsi pu s'enfuir vers la liberté en empruntant un véritable chemin de fer. William Craft, ébéniste qualifié, avait trouvé du travail à Boston. Sa femme et lui fréquentaient l'église de Theodore Parker, chef du comité de surveillance local, dont la congrégation comprenait plusieurs autres esclaves en fuite. La publicité qui entoura l'affaire Craft ne fut pas sans attirer l'attention de leurs propriétaires. Dès que le projet de loi sur les esclaves fugitifs eut été entériné, il envoya 2 agents récupérer le couple, autant lancer une balle de caoutchouc contre un mur de briques. Boston était le centre de communication des abolitionnistes. Fidèles à la doctrine de la loi d'en haut, des Noirs et des Blancs de la ville s'étaient jurés de résister à la loi sur les esclaves fugitifs. « Nous devons fouler aux pieds cette loi », déclara Wendell Phillips. « Elle ne méritait rien d'autre que l'opprobre, la résistance, la désobéissance », renchérit la société anti-esclavagiste de l'endroit qui ajoutait « En tant qu'êtres moraux et pieux, nous ne pouvons nous soumettre à un statut immoral et impie ». Lorsque les chasseurs d'esclaves arrivèrent à Boston le 25 février 1850, ils firent serment de capturer les Craft. Dussent-ils rester ici pour l'éternité? Et s'il n'y avait pas assez d'hommes dans le Massachusetts, pour les prendre, ils en feraient venir du sud. En définitive, ils ne restèrent que 5 jours et repartit de bredouille. Parker cacha Helen Craft dans sa propre demeure et prit l'habitude d'avoir en permanence un pistolet chargé sur son bureau. William se terra chez un abolitionniste noir qui gardait 2 barils de poudre devant sa porte et un véritable arsenal dans sa cuisine. Des membres du comité de surveillance placardèrent un peu partout des affiches portant le signalement des voleurs d'hommes, les harcelèrent dans la rue et leur firent savoir le 30 octobre qu'il serait impossible de répondre de leur sécurité s'ils restaient plus longtemps. Ils reprirent le train l'après-midi même. Le président Fillmore s'emporte, menace d'envoyer les troupes fédérales, fait savoir aux propriétaires des Craft qu'il n'y a rien à faire, qu'il les aidera. Mais malgré tout, il n'y aura rien à faire. Boston va rester aux commandes de cette nouvelle révolution. Il y aura d'autres cas. En février 1851, un serveur noir qui avait pris le nom de Sadrach, après s'être sauvé de Virginie. Thomas Sims, un jeune esclave de 17 ans qui s'était enfui de Georgie en février 1851. Ceux-là seront récupérés par les chasseurs d'esclaves. Bon, des affaires qui ont défrayé la chronique et qui, évidemment, ont fait monter la pression, vous le comprenez, puisque vous avez pu le constater, on s'affronte dans la presse avec des mots qui ne sont pas des mots couverts. Au mois d'octobre 1850, on commence à parler de tuer les chasseurs d'esclaves et de créer des communautés d'autodéfense. C'est dans un village de Pennsylvanie, Christiana, le 11 septembre 1851, qu'une fusillade va éclater, au terme de laquelle le propriétaire d'un esclave en fuite va être tué et son fils blessé. Je vous lis la chronique. Lorsqu'il vint enfin, ce temps de la violence fut à Christiana, village de Pennsylvanie, proche de la frontière du Maryland, à peu près à mi-chemin de Philadelphie et d'un village du nom de Gettysburg. Peuplée d'une communauté de Kakers qui avait accueilli les fugitifs à bras ouverts, Christiana n'était rien moins que paisible et amicale le 11 septembre 1851. Ce matin-là, un propriétaire d'esclaves du Maryland, accompagné de plusieurs membres de sa famille et de 3 marshals adjoints, y arriva, lancé à la poursuite de 2 esclaves qui s'étaient sauvés 2 ans auparavant et dont on disait qu'ils se cachaient dans la maison d'un autre noir. Les arrivants trouvèrent en effet leur fuyard ainsi qu'une bonne 20aine de noirs armés qui s'étaient jurés de s'opposer à cette capture. 2 Kakers firent leur apparition et conseillèrent aux chasseurs d'esclaves de battre en retraite pour leur propre bien. Le propriétaire refusa, s'écriant que le diable m'emporte si je ne récupère pas mon bien. » Une fusillade éclata. Quand elle cessa, le propriétaire gisait mort et son fils gravement atteint. Deux autres blancs et deux autres noirs étaient légèrement blessés. Les noirs prirent la poudre d'escampette, leurs trois chefs filant droit sur le Canada par le chemin de fer souterrain. Le chemin de fer souterrain, c'était la filière qui permettait aux esclaves de quitter les États esclavagistes. La bataille de Christiana va devenir un événement national qualifié de premier acte de guerre civile. Le gouvernement fédéral, pour montrer qu'il ne plaisantait pas, va poursuivre les participants non seulement pour avoir résisté à la loi sur les esclaves fugitifs, mais pour autre trahison. Le procès tourne à la farce. Et les efforts faits par le gouvernement pour discréditer la résistance ne font qu'accroître la sympathie pour les abolitionnistes. Il faut voir qu'on commence à être dans un état de crispation qui fait que tout ce qu'on va faire, même de mal, pour les esclavagistes, va être applaudi par les sudistes et inversement, honni par les nordistes. On commence à perdre la raison. La résistance du Nord à la loi sur les esclaves fugitifs alimente le ressentiment des États du Sud. Techniquement parlant, ils ont raison. Il y a une loi qui s'appuie sur la Constitution. Et les États du Nord refusent de respecter cette loi. Il faut bien avoir cela présent à l'esprit, et on aura l'occasion de le redire, mais juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, les sudistes ont des raisons de se fâcher contre les nordistes. Mais vous allez voir qu'ils vont commettre un certain nombre d'actes regrettables. La résistance du Nord à la loi sur les esclaves fugitifs alimente le ressentiment des États du Sud. En 1851, la Caroline du Sud, la Géorgie et le Mississippi tiennent des conventions pour statuer sur la valeur de l'Union. On commence déjà à discuter de ce problème. Nous sommes dans l'Union, on nous fait des misères, on ne respecte pas la parole donnée, la parole législative. Est-ce que nous devons finalement rester dans cette Union où l'on ne peut pas faire respecter la loi? Cependant, pour des raisons de cohérence de parti, les unionistes prennent temporairement le dessus, à la condition cependant que la loi de 1850 soit appliquée correctement. Vous avez compris que, quand on dit que pour des raisons de cohérence de parti, les unionistes prennent le dessus, ça veut dire que l'éclatement nord-sud, abolitionniste, esclavagiste, ne s'est pas encore produit. Il y a encore dans les partis des gens qui sont des deux côtés. Dans le même parti Whig, il va y avoir des esclavagistes et des abolitionnistes. On ne s'est pas encore déchiré, ça ne va pas tarder. Mais la sauce ancienne tient encore, mais de plus en plus mal. La controverse décroît temporairement. Beaucoup de fugitifs sont partis au Canada. Bon, c'est un peu loin pour aller les chercher. Les fédéraux ne peuvent pas aller au Canada. Mais le ressentiment contre la loi de 1850 continue de couver chez de nombreux Yankees. Même si on n'applique pas très bien la loi, ils ne sont quand même pas contents de cette loi. C'est à ce moment-là que Harriet Beecher Stowe, qui est fille, sœur et épouse de pasteurs congrégationalistes, qui a le don d'habiller les thèmes de la doctrine du péché, de l'expiation et du salut d'une prose vibrante de pathétique et de sentimentalité, écrit la case de l'oncle Tom. Le roman est publié en librairie au printemps de 1852, après avoir été publié en feuilleton dans une revue anti-esclavagiste. Au bout de 10 ans, plus de 2 millions d'exemplaires vendus aux USA, ce qui en fait le plus grand succès de librairie de tous les temps, proportionnellement à la population considérée. Habilement, l'auteur met dans la peau du méchant esclavagiste un Yankee passé au Sud. Elle fait ainsi de l'esclavage et le péché de toute la nation, et non seulement du Sud. C'est très habile, effectivement. Ça lui évite d'irriter telle ou telle frange de la population, et puis ça correspond aussi à la réalité. Si l'on ne peut mesurer précisément l'influence du roman politiquement parlant, il est absolument certain, puisque beaucoup de personnes l'ont dit, que beaucoup ont basculé dans le clan des abolitionnistes en raison de ce roman. Les sudistes sont piqués au vif. Dans le même temps, le résultat du recensement de 1850 montre que la croissance démographique est plus élevée dans le Nord. Il est évident que la plupart des immigrants arrivent ici. Et comme ils arrivent ici, beaucoup y restent, évidemment, surtout que les industries sont plus nombreuses. Les États-Unis, c'est grand pour redescendre vers le Sud, ça fait déjà du chemin. Et puis, c'est une terre fertile. Trois fois plus de gens nés dans le sud s'installent dans le nord que l'inverse. Donc il y a aussi une immigration interne qui contrarie les sudistes. Les 7/8 des immigrants s'installent dans le nord. La croissance démographique dans les 10 années précédentes est 20% plus élevée dans le nord. Avec 42% de la population, les États esclavagistes ne détiennent que 18% de la capacité de fabrication. Cela est d'autant plus inquiétant que près de la moitié de ce capital industriel est regroupé dans les 4 États frontaliers, c'est-à-dire le Missouri, le Kentucky, le Maryland. Et le Delaware. Qui est juste là. Voilà. Cette inquiétude par rapport à ce que les sudistes ressentent comme une vassalité au profit du Nord va servir de base et de tremplin à la vision d'un empire commercial sudiste. Alors là, on va commencer un peu à délirer dans le Sud. De fait, le Sud va faire des progrès importants dans les années 1850, multipliant leur kilométrage ferroviaire, accroissant les capitaux investis dans les manufactures. Malgré cela, le Nord continue de progresser plus vite. Cela est probablement dû à la meilleure compétitivité du travail de l'homme libre par rapport à l'esclave. Je rapporte la thèse de l'auteur, qui est sans doute juste. Cependant, un examen attentif de la situation démontre que l'intégration des esclaves dans les entreprises industrielles, comme par exemple les fonderies, était parfaitement réussie et pouvait être poursuivie sur une plus grande échelle. En effet, dans la Constitution américaine, on ne prévoyait pas que l'esclavage serait exclusivement au profit du coton. L'esclave pouvait travailler aussi bien dans une industrie lourde que dans un champ de coton, évidemment. Et donc, on constate que les esclaves sont intégrés aussi bien dans un endroit que dans l'autre. Donc, la thèse précédente relativement à la compétitivité du travail de l'homme libre par rapport à l'esclave est peut-être à modérer. Il est probable que la convention de la supériorité du système des valeurs agrariennes a créé dans le Sud un climat culturel hostile à l'industrialisation. Dans les villes et les usines, les vices s'étalent plus complètement, alors que la vie rurale encourage l'hospitalité, la courtoisie et l'esprit d'indépendance. Bref, les vertus supérieures, selon les sudistes, ce qui est tout à fait contraire à la philosophie capitaliste des pères fondateurs, et notamment de Benjamin Franklin. En outre, à partir de 1850, la demande en coton a été énorme. Et c'est sans doute l'une des principales explications du maintien du système en vigueur. Vous avez vu qu'on arrive à faire augmenter la production de coton de façon colossale. Cette demande en coton suit l'accroissement de la production. Je dirais pour les sudistes, il n'y a aucune raison de changer un système pareil qui nous donne toute satisfaction et qui nous permet d'avoir une civilisation qui nous convient tout à fait. Le prix des esclaves va s'élever. Or, une loi fédérale avait interdit la traite depuis l'Afrique, depuis la fin de 1807. Ce qui veut dire que l'esclavage est un système qui vivait un peu sur lui-même par simplement la multiplication interne, puisqu'on n'avait plus le droit d'aller chercher les esclaves ailleurs depuis 1807. Nécessairement, compte tenu de cette situation, le prix des esclaves va augmenter. À partir de 1850, on va commencer à réclamer dans le Sud l'abrogation de la loi de 1807, ceci en raison du prix de la main-d'œuvre noire, mais aussi afin de se venger du Nord et de braver ses opinions. L'abroger la loi de 1807, ça veut dire nous donner la permission de nouveau d'aller faire la traite des esclaves en Afrique noire. Vous voyez que le Sud va commencer un peu à délirer à partir de là, et on va en avoir plusieurs exemples. Ils ont du mal à supporter l'attitude du Nord, mais ils ne réagissent pas d'une façon extrêmement raisonnable. Parallèlement, les sudistes imaginent pouvoir agrandir l'empire esclavagiste vers Cuba, d'abord. Cette idée, pourquoi pas Cuba? Mais Cuba appartient à l'Espagne, et l'Espagne refuse de vendre, malgré la proposition de 130 millions de dollars, les millions de dollars de 1830, hein, c'est sans doute pas mal, qui lui est faite. Donc, la porte de Cuba est fermée, et là, il y a un monsieur qui s'appelle William Walker, un aventurier, comme l'Amérique en secrète, qui va avoir l'idée d'aller conquérir le Nicaragua. Après tout, c'est pas très loin, c'est en Amérique du Sud, il n'y a pas de mer à traverser. Et il va réussir à regrouper avec lui une poignée d'individus, de sudistes, sans doute des aventuriers. Et il va partir avec cette poignée d'individus, on ne sait pas exactement combien, mais enfin, on va dire une centaine de personnes. Et il va tenter de faire un coup d'État au Nicaragua pour le transformer en État esclavagiste et en source d'esclaves. Il va monter 4 expéditions. Dans ses 3 premières expéditions, il se fait arrêter. Il a la sagesse de se remettre entre les mains des officiers américains. Il est ramené chez lui dans le sud. Et là, au lieu de le juger, on lui fait un triomphe. Voilà ce monsieur qui a voulu agrandir notre empire vers le Nicaragua. On lui fait un triomphe. Ça vous donne l'état d'esprit des hommes politiques du sud à cette époque-là. Encouragé, il va recommencer donc 3 fois. Et une 4e fois. Mais la 4e fois, cette fois-ci, comme sans doute dans l'Amérique du Sud, on en a un peu assez de voir M. William Walker arriver et tenter de déstabiliser le Nicaragua avec sa horde d'aventuriers, au lieu de le remettre à un capitaine américain, on le remet au Honduras, où on le pend sans autre formalité, ce qui met un terme aux aventures de M. William Walker. Mais enfin, ça vous montre l'état d'esprit dans lequel on se trouve à ce moment-là, en 1830, dans le Sud. Le parti Whig va disputer les élections présidentielles pour la dernière fois en 1852 en tant que parti. Milliard Fillmore, le président, va solliciter un second mandat et les efforts qu'il a déployés en faveur de la loi sur les esclaves fugitifs lui valent le soutien des Whigs du Sud. Par contre, les Whigs anti-esclavagistes soutiennent Winfield Scott, qui est virginien, mais qui ne possède pas d'esclaves, quoique du Sud. Donc, vous voyez, une scission, la première scission, le vrai scission, qui se produit dans le parti Whig. D'un côté, les esclavagistes, de l'autre, les anti-esclavagistes. La convention Whig sombre dans le ridicule. Après 53 tours de scrutin, Scott remporte la victoire. Donc, Scott, c'est le Virginien, mais qui ne possède pas d'esclaves, et qui a donc les suffrages des anti-esclavagistes. Inquiet, 9 représentants sudistes Whigs du Congrès annoncent leur refus de soutenir Scott. Malgré l'investiture donnée par la Convention, ils disent non, nous ne voulons pas de ce candidat qui ne défendra pas les intérêts du Sud. C'est la mort du parti Whig. Les sudistes se regroupent sous la bannière démocrate et Pierce sera élu à la satisfaction des sudistes vu qu'il fera appliquer strictement la loi sur les esclaves fugitifs. Et là-dessus, vont survenir 2 autres affaires, l'affaire Burns et l'affaire Garner, de nouveau des histoires d'esclaves fugitifs, qui vont faire monter la pression une fois de plus. En mars 1854, Anthony Burns s'échappe de Virginie, où il était esclave, et il parvient à se dissimuler à bord d'un navire en partance pour Boston. On a vu que Boston, c'était le paradis anti-esclavagiste, où il trouve du travail dans un magasin de confection. Malheureusement, Burns, qui savait lire et écrire, commit l'erreur d'envoyer une lettre à son frère, toujours esclave. Le maître intercepta la missive et apprit ainsi où se trouvait le fugitif. Il partit aussitôt dans le nord récupérer son bien. Un marshal adjoint arrêta Burns le 24 mai et le fit incarcérer sous très bonne garde dans les locaux du tribunal. Le comité de surveillance passa immédiatement à l'action, organisant une réunion au Faneuil Hall, où il fut décidé que résister au tyran, c'était obéir à Dieu. Aussitôt dit, aussitôt fait, un groupe d'abolitionnistes noirs et blancs, ayant à sa tête un pasteur unitarien de 30 ans, Thomas Wentworth Higginson, s'efforça de délivrer Burns en prenant d'assaut le tribunal armé de haches, de revolvers et d'un bélier. Higginson et un noir parvinrent à franchir la porte, mais furent refoulés à coups de matraque pour les assiéger. Au même instant, un coup de feu résonna et l'un des marshals tomba mort. Le président Pierce, à qui on demanda aussitôt de l'aide, expédia à Boston plusieurs compagnies de fusiliers marins de cavalerie et d'artillerie qui vinrent prêter main forte à la milice de l'État pour maintenir l'ordre, tandis qu'un commissaire fédéral statuait sur le cas de Burns. « À n'importe quel prix, déclara le président Pierce au procureur de Boston, veuillez faire appliquer la loi. » Le président ordonna ainsi aussi à une vedette de la douane de se tenir prête à reconduire Burns en Virginie. Tout en sachant parfaitement que c'était inutile, les avocats du comité de surveillance n'en tentèrent pas moins toutes les manœuvres légales possibles et imaginables, tandis que les Bostoniens réunissaient la somme nécessaire au rachat de Burns. Son propriétaire paraissait prêt à accepter, mais le procureur refusa de sanctionner ce marché. Force devait rester à la loi et il mena victorieusement l'affaire à son terme. Le 2 juin, sous escorte militaire, Burns gagna le port de Boston à travers des rues bordées de Yankees moroses, massés devant des bâtiments drapés de noir. Le drapeau américain avait été hissé à la tête en bas, et les cloches de la ville sonnaient le glas de la liberté dans le berceau de la Révolution américaine. Il en avait coûté 100 000 $, soit peut-être 2 millions de dollars de 1987, mais le gouvernement Pierce avait imposé la majesté de la loi. Les retombées de cette affaire furent considérables. « Quand tout fut fini et que je me retrouvais seul dans mon bureau, » écrivait un Whig jusque-là conservateur, « je me cachais le visage dans les mains et pleurais. Je ne pouvais pas faire moins. » Amos Lawrence, un mania du textile, nota de son côté. « Nous allâmes nous coucher un soir dans la peau de Whig à l'ancienne, conservateur, partisan du compromis et de l'union, et nous nous réveillâmes le lendemain abolitionniste acharné. » Un jury d'accusation fédérale inculpa Higginson, Theodore Parker, Wendell Phillips et 4 autres abolitionnistes blancs et noirs d'émeute et d'incitation à l'émeute. Après que le juge d'un tribunal d'instance eut infirmé l'inculpation pour vice de forme, le gouvernement renonça aux poursuites, conscient qu'il lui serait impossible d'avoir gain de cause devant les jurés du Massachusetts. Le 4 juillet, jour de la fête nationale, avec la bénédiction de milliers de ses concitoyens, William Lloyd Garrison brûla publiquement un exemplaire de la Constitution qu'il dénonça comme un pacte de mort. Les États de Nouvelle-Angleterre adoptèrent de nouvelles lois sur la liberté individuelle qui étaient, sur plusieurs points, en contradiction flagrante avec la loi fédérale. Passons sur l'affaire Garner. Mais voyez l'ambiance. C'est des mini-actes de guerre civile qui se produisent. On résiste à la loi, on résiste aux marshals fédéraux et visiblement tout est prêt pour l'explosion. Cependant, ce qui va vraiment déclencher le processus de la guerre de sécession, ce fut la loi Kansas-Nebraska qui va être adoptée par le Congrès en mai 1854. Cette loi visait à organiser le territoire du Nebraska que vous ne voyez pas sur la carte pour la bonne et simple raison que le Nebraska n'est pas encore organisé en État et donc n'a pas encore adhéré à l'Union. Et bien entendu, ce nouvel État va être un enjeu abolitionniste, esclavagiste. Il va falloir le faire tomber dans son escarcelle pour agrandir l'Empire. Et là, je suis obligé de rentrer dans le détail de ce processus de la loi Kansas-Nebraska en essayant de le résumer, mais sans le trahir, parce que ça vous montre aussi comment les choses vont évoluer. À l'origine de l'affaire Kansas-Nebraska, on trouvait ce même élan qui avait poussé les Américains vers l'Ouest dès le début de leur histoire. Des colons remuants et des spéculateurs fonciers avaient commencé à guigner, d'un œil plein de convoitises, le sol fertile des vallées des deux fleuves, le Kansas et le Platte. Mais les sudistes n'étaient pas pressés d'organiser ce territoire, car il était situé au-delà de la ligne en deçà de laquelle il n'était pas possible d'organiser l'esclavage. L'esclavage était exclu par le compromis du Missouri. Sans compter qu'il préférait évidemment, pour le chemin de fer, un tracé plus méridional, à travers les territoires déjà organisés, donc vers le plus au sud, du Nouveau-Mexique avec la Nouvelle-Orléans comme terminus oriental. Il se trouvait que 2 démocrates de l'Illinois, Richardson et Douglas, étaient l'un comme l'autre des champions de la doctrine prônée par le mouvement Jeune Amérique, celle de la destinée manifeste dont on a parlé tout à l'heure, sous forme d'une expansion ininterrompue vers l'ouest. Douglas avait besoin d'un soutien d'au moins une demi-douzaine de sénateurs du sud, lesquels lui firent savoir exactement ce qui lui en coûterait. Oui, on te donnera notre soutien, mais à condition que le Kansas tombe dans l'escarcelle des esclavagistes. L'obstacle le plus sérieux pour Douglas était un quator de sénateurs sudistes qui logeaient tous ensemble dans une demeure de F Street. On a donc appelé ce quator le mess de F Street. Un certain Hutchinson, qui faisait donc partie du mess de F Street, annonça qu'il était prêt à voir le Nebraska s'abîmer en enfer plutôt que de voter en faveur de son organisation en territoire libre. Le Mess de F Street fit passer un message à Douglas. S'il voulait son Nebraska, il devait y abroger l'interdiction qui frappait la servitude et mettre l'esclavagiste et l'anti-esclavagiste sur un pied d'égalité. Vous comprenez le topo? Pour que le Nebraska devienne un État, et donc s'agglomère à l'Union, les sudistes disent au sénateur Douglas, nous on votera pour, mais à condition que l'esclavage soit admis, au moins au même titre que le non-esclavage, dans le territoire du Nebraska. C'est donnant, donnant, sinon vous n'aurez pas notre soutien. Douglas n'était pas sans savoir qu'une telle mesure soulèverait une tempête de tous les diables, évidemment. Et il va faire, malgré ça, la démarche fatidique. Dans son projet, il ajoute une abrogation explicite de l'interdiction de l'esclavage au nord de la ligne. Donc, ce faisant, c'est une entorse à la loi générale. Qui plus est, sa nouvelle version du projet de loi organise deux territoires, le Nebraska à l'ouest et l'Iowa et le Kansas à l'ouest du Missouri. Cela avait tout l'air d'un artifice pour réserver le Kansas à l'esclavage et le Nebraska à la liberté. L'affaire soulève en effet une tempête de tous les diables. De son côté, le cabinet présidentiel était opposé à l'abrogation. Logique. Le gouvernement rédige un vague projet de rechange qui aurait permis de porter tout le problème de l'esclavage dans les territoires devant la Cour suprême. Mais le Mess de F Street, donc nos quatre sénateurs sudistes, ne l'entendent pas de cette oreille. Ça se passe comme ça là-bas. Hein. Le dimanche 22 janvier, en compagnie de Davis et Douglas, les membres du Mess de F Street forcent la porte de la Maison Blanche. Le président Pierce n'aimait pas traiter les affaires d'État le jour du Seigneur, à cette époque-là. Et ils mettent le président devant un ultimatum. Ou bien il soutient l'abrogation, ou bien il perd le Sud. Pierce, donc le président Pierce, capitule. Il accepte. Les démocrates et les Whigs du Nord furent abasourdis par le document que leur soumettait Douglas. Donc un document qui, en définitive, visait à faire une entorse à la loi et à permettre l'esclavage au-delà de la ligne de démarcation, si j'ose m'exprimer ainsi. Et à partir de là, ils vont, évidemment, avec les termes que je vous en citer certains, atroce complot, sinistre fief du despotisme peuplé de maîtres et d'esclaves. Oui, ils ont des plumes extrêmement acerbes à cette époque-là, hein, presque pire que le lobby juif. Et cet appel va donner le ton à un torrent de discours, de sermons, d'éditoriaux furibonds au Congrès à travers tous les États du Nord. Le New York Times, organe modéré, prédit que la réaction du Nord risquait fort de provoquer une haine intense et indéracinable envers l'institution de l'esclavage, haine qui écraserait son pouvoir politique malgré tous les risques et à n'importe quel prix. À la Chambre, les démocrates du Nord, qui devaient affronter leurs électeurs dès l'automne, se montrèrent plus rétifs aux pressions gouvernementales. Néanmoins, Alexander Stephens, chargé de défendre le projet de loi, fit donner la cravache et le peperon, et il arracha la ratification le 22 mai par 115 voix à 134. À partir de la ratification de ce texte, les dés sont jetés et le conflit va devenir inévitable. Alexander Stephens donc va dire « Il me semble que j'ai accompli la mission de toute ma vie. Peut-être, mais ce faisant, il donnait le coup de grâce au système bipartite national. Dans les deux chambres, tous les Whigs du Nord votèrent contre le projet. » Alors que 25 des 34 Whigs du Sud votaient pour ou s'abstenaient pour cause d'appariement avec des démocrates. C'est-à-dire après accord avec les démocrates qui désiraient aussi s'abstenir. Sur les 75 démocrates du Sud, 72 votèrent pour ou s'abstèrent par appariement, tandis que 49 des 108 démocrates du Nord votaient contre ou s'abstenaient par appariement. Donc on voit très bien la Chambre se diviser très nettement entre opposition nordiste, sudiste et non plus en fonction des partis qui existaient jusque-là. Une question se posait. Les partis politiques avaient volé en éclats. Qui allait ramasser les morceaux? Ce fut ainsi que de nouvelles coalitions anti-esclavagistes se formèrent dans tout le Nord pour disputer les élections de l'automne. Elles se donnaient différents noms. Coalition anti-Nebraska, de fusion, du peuple, indépendante. Mais celui qui revenait le plus souvent était républicaine. Ça nous amène à la dénomination actuelle des partis américains. Démocrates, républicains. Ce fut, semble-t-il, un rassemblement anti-Nebraska dans une église de Ripon, dans le Wisconsin, qui le premier adopta cette étiquette. Une réunion de 30 membres du Congrès à Washington ratifia ce choix le 9 mai. En juillet, dans le Michigan, le nouveau parti s'intitula officiellement le Parti républicain. Étant donné la nécessité où nous nous trouvons de nous battre pour les principes de base d'un gouvernement républicain, déclara la Convention du Michigan, et contre les desseins d'une aristocratie parmi les plus ignobles et les plus tyranniques qui aient jamais sévi sur terre ou avili l'homme, nous coopérerons et agirons sous le nom de républicain. C'est à ce moment-là que va émerger Abraham Lincoln, qui, comme je vous l'ai dit, était un sénateur républicain qui pensait que l'esclavage devait mourir de sa belle mort et sans violence, et qui pensait, certainement à juste titre, que les pères fondateurs avaient admis la persistance de l'esclavage dans la Constitution, mais uniquement comme un mal nécessaire. Tout est en place pour que le conflit naisse. Mais vous allez voir qu'il va y avoir, il va y avoir encore d'autres éléments, et non négligeables, qui vont intervenir. Entre 1850 et 1855, l'immigration explose. Les paysans pauvres, irlandais et allemands, s'entassent dans les taudis des grandes villes. La criminalité monte en flèche. Le nombre d'assassinats septuple. D'où renouveau du nativisme. C'est un phénomène de racisme, de xénophobie, bien particulier aux États-Unis. Le nativisme, ben, c'est tout simplement que seul le natif a droit à la parole. Tout celui qui vient de l'extérieur ne peut pas être admis. Il existe un film, je ne sais pas s'il a été très diffusé en France, Gangs of New York, où on voit effectivement, d'une façon assez réaliste, je crois, ces gangs d'Irlandais contre les natifs, c'est-à-dire les Américains, se battre dans une ambiance de taudis. C'était New York, effectivement, à cette époque-là. Dans la même période, le pape Pie IX réagit contre les erreurs libérales avec Syllabus Errorum, et l'archevêque de New York, Monseigneur Hugues, constatant l'augmentation énorme du nombre de catholiques due à l'immigration. Vous comprenez, tous ces Irlandais qui arrivent, ce sont des catholiques. Et donc, évidemment, l'archevêque de New York est sensible à cette augmentation de ses ouailles. Cette augmentation du nombre de catholiques due à l'immigration et la dynamique antilibérale induite par le pape prononce en 1850 une homélie célèbre sur le déclin du protestantisme et ses causes. Cette montée en puissance catholique réveille les vieilles haines. Voilà un élément supplémentaire qui va influer dans cette scission qui déjà était bien préparée. Et beaucoup de programmes électoraux vont épuiser. Nous avons l'aspect économique, très présent dès le départ. Nous avons l'esclavage qui va faire monter la pression et la passion et qui va faire énormément de bêtises, vous l'avez vu, aux sudistes. C'est fou ce que les sudistes ont fait comme sottises à partir de là. Nous avons cette immigration accrue qui apporte effectivement beaucoup de catholiques et ce clivage qui existe mais qui va se trouver grandi surtout dans le nord où l'immigration est très forte entre catholiques et protestants. Monseigneur Hugues va alors tenter de récupérer les lieux de culte, propriété d'associations, par alignement sur la pratique protestante. Les tribunaux lui donnent tort après d'aigres débats. En 1853, Monseigneur Gaetano Bedini, nonce du pape, arrive en Amérique pour trancher la querelle et il entame une tournée à travers le pays. Il pense pouvoir prêter main forte à l'élan que veut donner Monseigneur Hugues. Il arrive pour faire une tournée triomphale aux États-Unis. Il va être un peu déçu. La presse protestante et nativiste est prise de frénésie. Des émeutes éclatent dans les villes où il passe et il est obligé de rembarquer clandestinement pour l'Italie en février 1854. Autre clivage politique, la tempérance qui devient prohibition avec la loi du Maine. En général, les démocrates s'opposent à la prohibition alors que les Whigs sont divisés. Dans cette première période de prohibition, les lois sont peu appliquées, mais ce combat est récupéré politiquement contre les catholiques qui sont accusés d'exploiter de nombreux débits de boissons. Nouvel argument pour les nativistes,
Ouais, vous voyez, hein, ces Irlandais, ces Allemands, ces gens-là, qui sont catholiques, et puis en fait, ils apportent le vice avec eux, etc., etc. Nouvelle force qui contribue à faire éclater le bipartisme. Des sociétés secrètes s'organisent auxquelles seuls les protestants natifs peuvent adhérer. Là, je vais citer l'auteur. Vous voyez que même si à un moment on me dit de ne pas parler de franc-maçon, je suis obligé à quelque part de revenir au sujet parce que l'histoire nous y amène automatiquement et sans faillir. Dans plusieurs États, un nouveau et puissant parti nativiste parut profiter encore plus de ce naufrage. Depuis quelque temps, un certain nombre de sociétés secrètes auxquelles ne pouvaient adhérer que les protestants nés aux États-Unis avaient vu le jour. À New York, deux d'entre elles, l'Ordre des Américains Unis et l'Ordre de la Bannière Étoilée avaient fusionné en 1852 sous l'égide de James Barker. Dans le contexte des heurts entre protestants et catholiques au sujet des écoles, de la visite de Bedini et des campagnes en faveur de la tempérance, le dynamique Barker organisa des centaines de loges dans tout le pays, qui comptèrent jusqu'à 1 million de membres ou plus. Ceux-ci s'engageaient par serment à n'élire à des emplois publics que des protestants autochtones. Au cours de conseils secrets, l'ordre décidait d'accorder son soutien à certains candidats ou désigner les siens. Questionnés par des gens extérieurs à leur confrérie, les membres devaient se borner à répondre « I know nothing », « je ne sais rien », d'où leur sobriquet de « know nothing » qui leur resta. En raison de leur clandestinité et de leur organisation extrêmement serrée, ces « know nothing » formaient un groupe d'électeurs potentiellement très puissant. C'est un peu inhérent aux États-Unis où l'on sait que lors de l'avant-dernière élection présidentielle, Bush contre Kerry, non la dernière, les deux présidents étaient membres de la même secte, du même club secret, les Skulls and Bones. C'est quasi une tradition. Mais ça va jouer un rôle dans notre situation, dans ce microcosme. Les non-nothing essaient de décourager l'immigration. Ils assimilent les démocrates, les catholiques et l'esclavage. De leur côté, les immigrants vont grossir les rangs de l'aile Unker du parti démocrate, conservatiste et esclavagiste. Ainsi, l'enjeu des élections de 1854 peut se résumer par, d'un côté, la liberté, la tempérance et le protestantisme, de l'autre, l'esclavage, le rhum et le romantisme. Voilà comment on a stigmatisé le climat. Et voyez comment on a pu dériver et déraper, à partir notamment de ces problèmes d'esclaves fugitifs, pour arriver à une situation où la raison avait perdu beaucoup d'emprise sur ces factions qui étaient remontées les unes contre les autres, pour finalement, pour partie de mauvaises raisons. Cependant, des anti-esclavagistes comme Lincoln n'étaient pas nativistes pour autant. Ils faisaient valoir que vouloir l'égalité avec les Noirs, les abolitionnistes, n'était pas compatible avec un statut réducteur pour les Irlandais et les Allemands. Effectivement, c'est difficile de trouver la cohérence dans ce raisonnement nordiste, on va dire. C'est-à-dire, ouais, d'accord les Noirs, mais pas les autres. C'était incohérent. Lincoln, lui, était beaucoup plus raisonnable à tout point de vue. Les natifs, par exemple, voulaient priver les Irlandais et les Allemands du droit de vote. Peu à peu, les nativistes sont noyautés par les anti-esclavagistes qui réorientent leur mouvement. Dans la majeure partie du Nord, les républicains et les non-nothing avaient réussi en 1855 à éliminer les démocrates et les whigs. Donc, on va vraiment asseoir politiquement la domination du Nord dans cette partie des États-Unis. Lequel allait s'imposer contre les démocrates ? Dans le Sud, les nativistes sont aussi remuants. Dans une grande partie du Sud, le parti américain était essentiellement le parti Whig sous un nouveau nom.
Certes, une tradition de nativisme existait dans le Sud, en dépit du nombre relativement faible d'immigrants et de catholiques. Ce fut le nativisme qui sous-tendit le parti américain dans le Maryland, la Louisiane, le Missouri et dans une moindre mesure le Kentucky, autant d'États où l'on trouvait des villes ayant une importante population d'immigrants. Citoyens de la Nouvelle-Orléans, proclamait un tract de 1854, vous avez demain un important devoir à accomplir avec l'élection d'un procureur de la République. Le père Mullen et les jésuites ne doivent plus régner sous notre ville. Les Irlandais font de nos élections des scènes de violence et de tricherie. Américains, allons-nous nous laisser gouverner par des Irlandais et des Allemands ? Les émeutes nativistes et les flambées de violence, le jour du scrutin, eurent plus d'ampleur dans le sud que dans le nord. À Baltimore, diverses bandes telles que les gueules d'empeigne et les buveurs de sang s'illustrèrent en faisant régner la terreur autour des urnes, afin d'assurer la domination des non-Nothing. Vers le milieu des années 1850, des affrontements mi-ethniques, mi-politiques firent 4 victimes à la Nouvelle-Orléans, 10 à Saint-Louis, 17 à Baltimore et au moins 22 à Louisville. Donc vous voyez, cette espèce de confusion qui règne, elle va régner autant au nord qu'au sud. C'est finalement la question de l'esclavage qui va tracer la ligne de partage. Lors du premier congrès national du parti américain, qui seront les démocrates. À Philadelphie, les sudistes et les nordistes conservateurs votent le soutien à la loi Kansas-Nebraska, la fameuse loi scélérate qui organisait un état esclavagiste au-delà de la ligne. Dès lors, les anti-esclavagistes vont se réfugier, c'est les républicains. Dans le parti démocrate, on dit « c'est pas possible, nous ne pouvons pas être dans un parti qui va cautionner effectivement une telle forfaiture, on s'en va ». On part, on va chez les républicains. De plus, à partir de 1855, l'immigration diminue et l'argument électoral des non-Nothing se trouve affaibli. Les événements du Kansas convainquent les nordistes que l'esclavage est le seul véritable enjeu. À partir de là, la situation va se cristalliser dans ce fameux Kansas qui a été l'objet donc de cette loi scélérate du point de vue des nordistes. Les esclavagistes, qui ne veulent perdre à aucun prix ce territoire stratégique, font venir des hommes de sac et de corde pour voter, les bandits frontaliers. Le gouverneur du Kansas, choqué, fait organiser d'autres élections. Si bien qu'en janvier 1856, le Kansas possède 2 gouvernements territoriaux. C'est évidemment une anomalie. La tension monte, les 2 clans s'arment. L'assassinat d'un Free Soiler, donc un anti-esclavagiste, en novembre 1855, déclenche une série d'incidents, mais un hiver rigoureux calme les choses. Au printemps 1856, la tension remonte. La ville de Lawrence, abolitionniste, est mise à sac. Au Congrès, pendant ce temps, les 2 partis demandent l'admission du Kansas au sein de l'Union, chacun avec un projet de loi opposé. Charles Sumner fait un discours qui met le feu aux poudres. Et à la suite de son discours, effectivement, Sumner ne mâchait pas ses mots. Il avait lâché sa hargne. Il avait intitulé son discours « Le crime contre le Kansas ». Son discours s'est étalé sur 2 jours, les 19 et 20 mai. « Je vais faire le discours le plus approfondi, le plus complet de ma vie », annonça-t-il juste avant. À Salmon Chase, j'ai l'âme meurtrie par cet outrage et je vais la laisser s'épancher. Des malfaiteurs et assassins du Missouri, déclara-t-il, des mercenaires recrutés parmi les vomissures des ivrognes d'une civilisation agitée, avaient perpétré un viol contre un territoire vierge, l'obligeant à se soumettre à l'odieuse étreinte de l'esclavage. Sumner s'attaqua nommément aux membres du mess de F Street, auquel il associait dans l'opprobre Andrew Butler de Caroline du Nord, qui avait craché les glaires et les expectorations de sa rhétorique pour exiger que les partisans d'un État libre au Kansas fussent privés de leurs armes. L'État que représentait Butler, fidèle à la honteuse imbécilité qu'il doit à l'esclavage, avait envoyé au Sénat en sa personne un Don Quichotte dont la Dulcinée souillée aux yeux du monde et que lui seul croit chaste, et la Catin qui a nom esclavage. Ce discours déclencha une véritable tempête au Sénat où plusieurs démocrates ne ménagèrent pas leurs reproches. Et dans la presse où même les éloges des républicains sur le fond étaient mitigés par des réserves quant à la forme. La seule raison pour laquelle plus d'un sudiste renonça à provoquer Sumer en duel fut la certitude qu'il s'y refuserait. D'ailleurs, seuls deux hommes du même monde pouvaient se battre en duel. Un être aussi abject que ce scélérat Yankee ne méritait qu'une correction à coups de cravache ou de canne. Ainsi en jugea Preston Brooks, membre du Congrès et cousin d'Andrew Butler. Deux jours après le discours, Brooks pénétra dans la salle presque vide où se réunissait le Sénat, après l'ajournement de la séance, et s'approcha du bureau auquel était assis Sumer, occupé à écrire des lettres. « Votre discours, lança-t-il au sénateur, est une diffamation envers la Caroline du Sud et envers M. Butler qui est de mes parents. » Et comme Sumer cherchait à se lever, Brooks, pris d'une subite frénésie, le frappa à la tête plus d'une trentaine de fois avec une canne à pommeau d'or. Sumer, les jambes coincées sous son bureau, parvint finalement à arracher le meuble du parquet auquel il était fixé, mais ce fut pour s'écrouler avec lui dans une mare de sang. Cet incident déclencha la colère de tous les Yankees, y compris ceux qui n'avaient guère de sympathie pour la victime. Par contre, dans le Sud, on a félicité effectivement l'agresseur, si bien qu'on lui a envoyé des centaines de cannes avec des inscriptions dessus à sa gloire pour le fait dont il avait enorgueilli les politiques sudistes. Brooks, donc, l'agresseur, est acclamé par les sudistes. Il va démissionner, il sera réélu triomphalement. Voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et Sumer, par son discours, a véritablement mis le feu aux poudres. Les nordistes s'exaspèrent. Et on va rentrer dans un cycle de violence. Brown, qui est un fermier esclavagiste, anti-esclavagiste fanatique, qui habite au Kansas, a monté une bande armée composée notamment de 6 de ses fils. Il a 20 enfants. En apprenant l'agression de Sumer, il devient fou et il met sur pied des représailles contre ces chiens d'esclavagistes, en l'occurrence de paisibles voisins de Potawatomi Creek. Il enlève 5 colons et leur fend le crâne à coups de sabre. Brown ne sera jamais jugé. Les incidents graves se multiplient. Se déclenche au Kansas une guerre civile qui détermine le contexte de l'élection de 1856. Les démocrates préviennent que si le candidat républicain est élu, un certain Frémont, au détriment du candidat démocrate, un certain Buchanan, ce sera la fin de l'Union. La campagne porte sur le Kansas et sur l'esclavage. Elle déclenche une ferveur sans précédent dans l'histoire américaine. Le président Pierce nomme comme gouverneur du Kansas John Gary, qui réussit à la pacifier. À pacifier le Kansas. Les démocrates se rendent compte que le Kansas, occupé en majorité par des nordistes, risque de devenir un État libre. De nouveau, la tension remonte. Certains d'entre eux, en rupture de parti, rentrent au bercail. Buchanan est élu. Buchanan, c'est le candidat démocrate. La législature esclavagiste du Kansas multiplie les manœuvres pour faire du Kansas un État esclavagiste. Ils sont encouragés par l'élection de Buchanan, car naturellement, les colons étaient aux deux tiers nordistes. Gary, qui est le gouverneur, qui est mis en place par le précédent président, est écœuré et il démissionne. Il quitte les rangs démocrates dont il faisait partie. Buchanan ne veut pas se laisser déborder par le Kansas, donc le président Buchanan. Il nomme Robert Walker comme gouverneur avec mission de doter le territoire d'une constitution d'État. Donc vous avez compris le problème. Dans le Kansas, il y a deux tiers de nordistes, anti-esclavagistes, et un tiers de sudistes, esclavagistes, mais comme le Kansas est un enjeu énorme pour le Sud, les sudistes font des pieds et des mains jusqu'à bourrer les urnes pour arriver à faire tomber le Kansas dans le sein des États esclavagistes. Les sudistes truquent l'élection, les nordistes majoritaires refusent de participer à une parodie. Les sudistes refusent le référendum sur la constitution proposée par Walker, donc le gouverneur, lorsque Buchanan, le président des États-Unis, assure Walker de son soutien. Il crie à la trahison. Il demande la révocation de Walker. Buchanan cède et le référendum est abandonné. Nouvelles élections. Les sudistes bourrent les urnes. Walker annule ces élections et nomme pour la nouvelle législature une majorité de partisans d'un État libre. Les sudistes parviennent cependant à élaborer une constitution protégeant l'esclavage et réclament leur admission au sein de l'Union sans référendum préalable. C'est-à-dire que c'est la panique la plus totale. Chacun fait de son côté de prétendues élections. Chacun se prétend le représentant de l'État du Kansas. Plus personne n'est d'accord. Walker, le gouverneur, découragé, de nouveau démissionne. C'est le deuxième qui démissionne. Le 21 décembre 1857, le référendum sur le projet de constitution avec esclavage approuve celle-ci. Les Free Soilers, donc les nordistes, ont refusé de voter. Les Free Soilers organisent leur propre référendum, boycotté évidemment par les électeurs esclavagistes, et bien sûr, la constitution est rejetée. Le Congrès a donc le choix entre deux résultats pour le Kansas. Les passions s'enflamment à nouveau. Le Sénat, à majorité démocrate, ratifie la version esclavagiste. Mais après une bataille rangée à 2h du matin, le 1er avril 1858, la Chambre des représentants rejette le projet. Pour sauver la face, le gouvernement organise un référendum au Kansas qui rejette le projet. Les incidents armés reprennent. En 1859, les partisans d'un État libre réussissent à mettre sur pied une nouvelle convention et le Kansas devient membre de l'Union en 1861. Donc, malgré tout ce brûlot, le Kansas finit par trouver son statut. Là-dessus, sur cette situation agitée, une nouvelle affaire d'un esclave appelé Dred Scott est jugé par la Cour suprême. Et ça devient un nouveau brûlot. Scott prétendait avoir droit à l'affranchissement au motif de deux séjours passés dans des états abolitionnistes et il contestait que son propriétaire puisse le reprendre. Il considérait qu'à partir du moment où il avait transité par des états abolitionnistes, il ne pouvait plus avoir le statut d'esclave. C'est un argument qui se défendait. Puisque ces états ne reconnaissent pas le statut d'esclave. Mais la Cour, acquise au Sud, rejette cette prétention. Cet arrêt va aider le Parti républicain, dénonçant un complot sudiste, à se souder. Les républicains, Lincoln en tête, crient au complot, une telle doctrine permettant d'établir partout l'esclavage. Effectivement, un transit d'esclaves pouvait durer un jour, des mois, des années. On avait vu dans une de ces affaires un esclave qui était repris au bout de 19 ans. Alors, le propriétaire disait « je reprends mon esclave, je reprends sa femme, je reprends ses 6 enfants ». Et effectivement, cette théorie aboutissait à des résultats tout à fait délirants. La prochaine présidentielle est pour 1860. Je pense qu'on devrait arriver à finir vers 10h, 10h10, ça va bien ?
Oui. Oui.
On n'en a plus pour très longtemps. Lincoln considérait que le pays ne pouvait rester mi-esclavagiste, mi-libre. Il estimait que les pères fondateurs l'avaient admis comme un mal nécessaire et qu'il s'éteindrait progressivement. Son adversaire, Douglas, expliquait que les pères fondateurs voulaient avant tout le maintien de l'Union, les États restant libres chez eux. Il accusait Lincoln de vouloir donner aux Noirs l'égalité parfaite, ce qui n'était pas exactement la pensée de Lincoln, qui voulait l'abolition et laisser chaque État décider de ce qu'il en était de droit civique. Lincoln faisait le distinguo entre l'abolition, c'est-à-dire l'esclavage, et les droits civiques. Lincoln disait, bon, de toute façon, l'abolition, c'est absolument nécessaire, on ne peut pas continuer à tolérer l'esclavage qui n'a été admis à l'origine de la création des États-Unis que pour des raisons pragmatiques. Mais si on supprime l'esclavage, après, chaque État sera souverain pour dire s'il donne à ses sujets de droits noirs le droit de vote, enfin bref, les droits accordés à tous les citoyens ou pas. La doctrine de Lincoln était extrêmement équilibrée de ce point de vue. Quoi qu'on en pense. Douglas est élu au Sénat, mais Lincoln, qui était inconnu jusque-là, sort grandi d'avoir fait jeu quasi égal. Effectivement, on a vu évoluer déjà Douglas à propos de la loi Kansas-Nebraska tout à l'heure. La croissance s'arrête en 1858 et c'est la panique. Émeutes à New York, nombreux effondrements financiers. L'économie repart. 1859 voit la fin de la crise. Les républicains prônent le relèvement des tarifs douaniers dans un but protectionniste. Les démocrates ne veulent pas car le Sud importe beaucoup. Le problème des tarifs douaniers a certainement beaucoup joué dans le déclenchement de la guerre. Bien entendu, l'histoire ne retient que l'esclavage, mais nous avons vu qu'il y avait de nombreuses causes en fait à cette partition entre le Nord et le Sud. Et la dernière cause en date, c'est ce problème des tarifs douaniers parce que le Sud importe beaucoup. Et si on relève les tarifs douaniers, évidemment, ça va les contrarier énormément. Le Nord, lui, importe la production du Sud, donc le coton. Donc, ça ne va influer que sur le prix du coton, qui est important, mais enfin, sur lequel, de toute façon, le Sud ne peut pas non plus trop exagérer, parce qu'il lui faut quand même vendre son coton. Le Sud bloque d'autres projets de loi sur le tracé du chemin de fer, les parcelles agricoles. Il se sent fort, car il n'a été que peu touché par la crise grâce au roi Coton, dont le cours ne s'est pas effondré, et il y puise un argument pro-esclave. Les ouvriers mal payés sont la lie de l'humanité. Le travailleur libre meurt s'il ne travaille pas, alors que l'esclave et sa famille sera toujours nourri par son maître. C'est un raisonnement auquel on ne peut pas rester insensible dans les États-Unis de 1850. En Suisse, en 2008, la question ne se pose pas. Le travailleur salarié ne meurt pas, même s'il perd son emploi. Mais par contre, dans les États-Unis de la crise en 1850, la question pouvait effectivement se poser, et l'argument du Sud était tout à fait pertinent, d'autant que, il est vrai, la majorité des propriétaires d'esclaves ne traitaient pas mal ces esclaves. Mais vous voyez ressurgir de nouveau l'argument économico-esclavagiste, on va dire. En mai 1858, John Brown se rend avec 11 autres blancs au Canada et y rencontre 34 noirs pour fonder une république des esclaves libérés dans les montagnes. Brown est élu commandant en chef, donc au Canada. De nombreux abolitionnistes sont convaincus qu'il faut passer à la méthode violente. Ils fondent une société secrète, les Six Secrets, qui va financer le plan de Brown pour envahir le Sud. Voilà de nouveau une épopée comme on en trouve qu'aux États-Unis. Brown, 5 noirs et 17 blancs, projettent de s'emparer de la fabrique d'armes de Harper's Ferry en Virginie, en se basant en face dans une ferme située dans le Maryland, de l'autre côté du Potomac. Donc vous imaginez le tableau, ils sont dans 17 blancs, plus bon, ça fait 18, 5 noirs, ils sont 23, ils veulent s'emparer d'une fabrique d'armes pour, tout simplement, pour déclencher la révolution. Ils se mettent en face, ils traversent le Potomac, ils s'emparent de la fabrique, qui avait un seul gardien la nuit, ce n'était pas effectivement un intérêt stratégique colossal. Mais dès le matin du 18 octobre, les voisins commencent à lui tirer dessus. On est armé aux États-Unis à cette époque-là. 36 heures plus tard, les fusiliers marins dirigés par le colonel Robert Lee faisaient prisonner Brown et les survivants du commando. Les passions s'enflamment à nouveau, mais Brown et ses hommes sont vite jugés et pendus. Le Sud s'effraie d'abord, croyant avoir vu le début d'une insurrection généralisée. Vous avez entendu parler du colonel Lee, mais vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu parler du colonel Lee, qui intervient dans le cadre du gouvernement, effectivement, puisque c'est un officier tout à fait régulier, le colonel Lee, qui est du Sud, mais qui est déjà militaire et qui est tout à fait anti-esclavagiste. Mais nous allons voir. Pour quelle raison il va changer de bord? Pourquoi il va prendre la tête de l'armée du Sud? Le Sud s'effraie d'abord, croyant avoir vu le début d'une insurrection généralisée, puis se rend compte que Brown était seul et que personne ne le suivait. Brown meurt martyr d'une noble cause. Des manifestations extraordinaires ont lieu le jour de son exécution et le Nord le considère comme un héros. Les débordements qu'on a vus au Sud, avec les aventuriers qui partent au Nicaragua, etc., les gens qui se sont portés en triomphe, on les voit aussi au Nord. Les nordistes vont traiter à martyr cette uluberlue de Brown qui aurait pu effectivement déclencher une guerre civile. Les Blancs du Sud sont furieux à leur tour de cette réaction disproportionnée et ridicule. Les partisans de la désunion montent le ton. Les nordistes sont chassés du Sud avec force goudron, plume, lynchage. Ce n'est pas que dans Lucky Luke. Vraiment, c'était utilisé dans des grosses quantités. C'est dans cette atmosphère que les démocrates ouvrent leur convention à Charleston en 1860. Le discours est clair, donc les démocrates, c'est-à-dire les sudistes, soumission du Nord ou sécession. C'est en ces termes-là que la question se pose pour les États du Nord, qui, vous le voyez, sont loin d'être négligeables. Soumission du Nord ou sécession. Ces gens-là, du Nord, ne respectent pas la Constitution. Nous avons vu qu'ils ne respectaient pas même la loi, quand la loi sur les esclaves fugitifs. Ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça. Ou bien ils se soumettent, ou alors on fait sécession. La Convention n'arrive pas à se décider sur un nom. On en convient à refaire une à Baltimore. Et là, les esclavagistes font leur propre convention et désignent John Breckinridge. Les autres désignent Douglas. Par contre, à Chicago, les républicains qui font preuve de plus d'unité, ben eux, à force de filtrage, on arrive à un parti républicain qui est uniforme, ils vont investir Lincoln triomphalement. Le programme électoral du Parti républicain est présenté comme un modèle d'équilibre et de conviction dans l'histoire américaine. Il contenait aussi une mise en garde contre les désunionistes. Pendant la campagne, l'administration Buchanan en place est révélée comme étant la plus corrompue qu'aient eu les États-Unis jusqu'alors. Je vous rappelle que le président Buchanan était démocrate, c'est embêtant pour le Sud. Parallèlement, les démocrates qui sont sous tension avertissent que l'élection de Lincoln sonnera le glas de l'Union. Si Lincoln est élu, nous, de toute façon, on fait sécession. Lincoln est élu président. Les commentateurs considèrent que c'est l'aboutissement de la révolution anti-esclavagiste. Alors, pour notre auteur, il est très clair qu'il s'agit d'une révolution. Pourquoi, techniquement, c'est une révolution? Mais pour une raison très simple, c'est que la Constitution des États-Unis garantissait l'esclavage. Et donc, à partir du moment où la thèse abolitionniste est portée au pouvoir, il s'agit bel et bien d'une révolution. Et donc, les révolutionnaires ne sont pas les sudistes qui veulent faire sécession, ce sont les nordistes. La Caroline du Nord organise en réaction une convention et le 20 décembre 1860 vote à l'unanimité une ordonnance dissolvant l'union entre cet État et les autres. Réaction en chaîne avec convention à l'appui. Le Mississippi le 9 janvier 1861, la Floride le 10, l'Alabama le 11, la Géorgie le 19, la Louisiane le 26, le Texas le 1er février 1861. Cette première vague sécessionniste se fait dans la liesse populaire. On ne croit pas à la guerre. La sécession était-elle constitutionnelle ou bien révolutionnaire? La crainte immédiate est qu'une scission se produise dans le Sud entre propriétaires et non-propriétaires d'esclaves. La campagne pour les convaincre est axée sur la suprématie blanche. Ils doivent ne pas vouloir vivre à égalité avec les Noirs. La liberté n'est pas possible sans l'esclavage. Mais tant le président sortant Buchanan, quoique démocrate, que Lincoln sont farouchement contre la désunion. Ils considèrent que la désunion est anticonstitutionnelle et que le droit de révolution ne peut être invoqué que pour une cause juste. Il convient de préciser qu'aux USA, l'union est antérieure aux États et que c'est l'union qui a permis la création de la plupart des États. Mais les décisions sont difficiles à prendre. Il faut attendre l'élection du nouveau Congrès, environ 13 mois après la présidentielle. Celui en place ne veut pas se mouiller. Et puis la question des droits de douane revient sur le tapis. Lincoln précise qu'il faut les encaisser par la force si nécessaire. Il y a 3000 kilomètres de frontières. Une commission spéciale de la Chambre, la commission des 33, est mise en place pour chercher une solution. Aucun compromis ne réunit tous les suffrages. Pour son investiture, Lincoln est obligé de gagner Washington en cachette, un complot ayant été éventé pour l'assassiner lors d'un changement de train. Dans son discours, Lincoln prône la fermeté, notamment dans le recouvrement des droits de douane et la restitution des biens fédéraux pris par les sécessionnistes, les arsenaux, les douanes. Pour la récupération des droits, les républicains comptent sur Fort Sumter et ses troupes. Ce fort est situé dans la baie face à Charleston. Les sécessionnistes de Caroline du Sud le réclament. Lincoln refuse de le faire abandonner. Le cabinet de la Confédération sudiste, dirigé par Jefferson Davis, décide de prendre le fort par la force le 9 avril. Voilà, nous sommes à la veille de la guerre, puisque vous avez bien suivi les... On est allé très vite, là, parce que ça ne nécessitait pas beaucoup de commentaires. Et vous avez vu qu'au début de l'année 1861, les premiers États sécessionnistes ont voté la sécession. Donc c'est fini, ils ont déclaré qu'ils refusaient de continuer à appartenir à l'Union. Or, tant le président sortant que celui qui va rentrer sont de toute façon pour le maintien de l'Union. Donc l'épreuve de force a commencé, et très précisément, ça va être à ce moment-là, au moment de la prise de Fort Sumter, qui est pris le 14 avril, et cette nouvelle va galvaniser le Nord. Le 15 avril, Lincoln appelle 75 000 miliciens sous les drapeaux pour mater l'insurrection. La population des États du Nord s'enflamme pour l'Union. Va se poser un dilemme pour le Haut Sud, Arkansas, Tennessee, Caroline du Nord du Sud et Virginie, ce qu'on appelle le Haut Sud. Pourquoi un dilemme? Tout simplement parce qu'ils sont sur la charnière, entre le Nord et le Sud. Les 8 états stratégiques pour la guerre à venir sont au pied du mur, selon le côté dans lequel ils vont basculer, puisqu'ils n'ont pas encore basculé, ils ne font pas encore partie des sécessionnistes, mais le sort de la guerre va effectivement basculer. Ces états refusent de fournir des contingents à la demande de Lincoln pour aller se battre contre leurs frères du Sud. Ils se sentent sudistes. La Virginie fait sécession le 17 avril. Elle apporte un énorme potentiel industriel, et notamment un homme, Robert Lee, le capitaine Lee, qui devient général de l'armée confédérée. Lee est un anti-esclavagiste. Lee va se faire pressentir par l'armée nordiste, par le gouvernement, pour exercer le commandement de l'armée du Nord. Il va refuser et il va se porter au Sud, tout simplement parce qu'il refuse de porter la guerre contre sa terre natale, qui est, je crois, la Virginie. Et donc, vous avez des statues de Lee qui subsistent, et vous l'avez donc à la Nouvelle-Orléans, puisque cet anti-esclavagiste va accepter de prendre le commandement de l'armée du Sud. L'exemple de la Virginie entraîne l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Tennessee. Les populations du Maryland, du Missouri, du Kentucky se partagent, mais le Kentucky seul rejoint officiellement la Confédération du Sud. Le Delaware reste intégralement dans l'Union. En traversant à pied Baltimore, dans le Maryland, le 6e régiment du Massachusetts se heurte à des émeutiers. 4 soldats et 12 émeutiers sont tués. Ce sont les premières victimes d'une guerre qui fera 700 000 morts. 700 000 morts, c'est la guerre la plus meurtrière, le conflit le plus meurtrier pour les États-Unis. Et notre propos, dans son étendue, va se terminer à cet endroit, puisque à partir de là, il va se dérouler une guerre, comme toutes les guerres, avec ses défaites, ses victoires. Le 31 janvier 1865, après la réélection de Lincoln, les États de l'Union votaient le 13e amendement à la Constitution qui va abolir l'esclavage. Le 2 avril 1865, le gouvernement sudiste est obligé d'évacuer Richmond, qui était son siège. Le 9 avril, Lee capitule entre les mains de Grant près d'Appomattox Court House. Lincoln évoque le droit de vote pour les Noirs, sachant lire et écrire, et pour les anciens combattants, et il sera assassiné le vendredi saint suivant par un dénommé John Wilkes. À partir de là, je vais laisser la conclusion à la plume de l'auteur, et vous allez voir qu'elle est très intéressante. Lorsque les sécessionnistes prétendaient que leurs actes visaient à préserver les droits et les valeurs traditionnelles, ils avaient raison. Ils se battaient pour protéger leur liberté constitutionnelle contre la menace que le Nord faisait peser sur elles. En l'espace de 3/4 de siècle, la conception que le Sud se faisait du républicanisme n'avait pas changé. Celui du Nord, si. Avec une absolue sincérité, le Sud lutta pour préserver sa propre version de la République des pères fondateurs, un gouvernement au pouvoir limité qui protégeait les droits de propriété et dont l'électorat se composait de grands et petits propriétaires terriens de race blanche, que ne venaient nullement perturber les troubles engendrés par les grandes villes, les usines impersonnelles, les travailleurs libres trop agités et les conflits de classe. L'accession au pouvoir du Parti républicain, avec son idéologie fondée sur un capitalisme dominé par la libre concurrence, l'égalitarisme et le travail libre, fut pour le Sud le signal indiquant que la majorité des nordistes s'était irrévocablement tournée vers cet effrayant avenir révolutionnaire. D'ailleurs, le Parti des républicains noirs passait, aux yeux de nombreux sudistes, pour un parti essentiellement révolutionnaire, composé d'une foule hétéroclite de sans-culottes, de mécréants et d'adeptes de l'amour libre, matinée de femmes dévergondées, d'esclaves fugitifs et de partisans de l'amalgame des races. Par conséquent, la sécession était une contre-révolution préventive. C'est vrai que, à la lumière de la société d'aujourd'hui et des événements, ils n'avaient pas forcément tort, ces gens-là. La victoire de l'Union détruisit la vision sudiste de l'Amérique et garantit que celle du Nord s'étendrait au pays tout entier. Un planteur de Louisiane qui regagna tristement ses pénates après la guerre écrivit en 1865 « La société a été radicalement transformée par la guerre. La Révolution française de 1789 n'avait pas provoqué un plus profond changement dans l'ancien régime que celle-ci ne l'a fait dans notre société. Quelle serait la place des esclaves affranchis et de leurs descendants au sein de cet ordre nouveau ? La victoire nordiste permit de préserver l'intégrité de la nation et d'abolir la servitude, Mais une troisième question vitale, quelle serait la place des esclaves affranchis et de leurs descendants dans la société, demeure aujourd'hui encore vivace et épineuse. Au début de la guerre de sécession, Abraham Lincoln avait dit que la question de la nation et celle de la démocratie pour lesquelles on livrait ce conflit concernait davantage que le destin des seuls États-Unis et qu'elle se posait à la famille humaine tout entière. On pourrait en dire autant des relations interraciales et de la place des minorités. Ces questions liées aux causes de la guerre de sécession concernent elles aussi la famille humaine tout entière en France, en Union soviétique et dans bien d'autres pays tout autant qu'aux États-Unis. 125 ans après la guerre entre les bleus et les gris, les tensions raciales demeurent et portent en elles, comme un abcès suppurant, la menace de futures guerres civiles. Et sur ces propos tellement lucides de M. MacPherson, je vais conclure ce modeste exposé que je vous remercie d'avoir écouté avec patience. Vous avez dans la littérature des auteurs du Sud, bien sûr, qui ont traversé le temps comme Mark Twain. Il s'appelait en réalité Samuel Langhorne Clemens et il a travaillé sur les bateaux à vapeur du Mississippi. Et le conducteur du bateau disait à celui qui était chargé de tirer la cloche, enfin, je ne sais rien, Mark Twain, c'est-à-dire sonne deux fois quand il approchait certains rivages. Et donc il a pris ce pseudonyme de Mark Twain et il a écrit les célèbres aventures de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, son grand copain, dont on peut recommander la lecture aux enfants, qui nous montre ce sud. Ce sud, ces bords du Mississippi, qui vivait en paix. Donc il est né en 1835 et il a écrit ses romans en 1876. Bischer Strove l'a écrit en 1800, je ne sais plus, j'ai dû vous donner la date, en 1850 ou 1852. Par contre, Autant n'emporte le vent, beaucoup plus romantique évidemment, a été écrit en 1930. Alors, la littérature nous permet de conduire certaines réflexions. Et voyez, moi, je dirais que la civilisation du Sud nous a donné des aventures de Tom Sawyer ou de Huckleberry Finn. Puis la civilisation du Nord nous a sûrement donné plus de Harry Potter, des choses comme ça. Il faut bien voir que l'auteur est clair là-dessus. Hein, tant au début de son ouvrage qu'à la fin, on a vraiment affaire à la fin d'une civilisation. C'est clair que l'esclavage aurait dû disparaître, mais il n'aurait pas dû disparaître de cette façon-là. Les sudistes, dans le fond de leur philosophie, n'avaient pas tort. Ils avaient tort sur l'esclavage. Et Lincoln pensait que l'esclavage disparaîtrait naturellement, et c'était sûrement vrai. Mais il y a eu un concours de circonstances, un ensemble de facteurs qui ont crispé la situation et puis qui ont fait que, voilà, c'est devenu un véritable prétexte, à cette guerre fratricide. Et dont les résultats, eh bien, nous les ressentons aujourd'hui parce que le gendarme du monde, c'est un gendarme yankee. C'est pas un gendarme sudiste. Hein. Vous voyez le problème. Si l'inverse avait été vrai, l'esclavage aurait évidemment disparu. Mais c'est sûr que la face du monde aurait été changée. Je vous en prie, monsieur.
Oui.
Ben, je ne sais pas si je saurais répondre à quoi que ce soit, mais enfin, interrogez toujours.
C'est une idée, en quelque sorte. En vous écoutant, on pense qu'en fait, c'est un conflit essentiellement idéologique qui a mal tourné, qui finit dans une guerre civile. Maintenant, peut-être que vous avez dit, ce qui a déclenché la guerre, ça a été, disons, qu'on a le droit à l'esclavage des États du Sud, a été radié. La Constitution, en fait, une révolution. On peut penser avec ça que les États du Nord ont voulu sciemment cette guerre pour des raisons économiques. Ça, c'est une thèse. Est-ce que s'ils n'avaient pas voulu, ils auraient pu freiner, disons, en tout cas atténuer l'esclavage en abolissant cette loi qui permettait de poursuivre, de rechercher sans prescription les esclaves fugitifs partout dans les États-Unis. Ça aurait été un premier pas qui aurait déjà, je dirais, à mon sens, été aurait pu en tout cas être fatale à l'esclavage. À ce moment-là, il suffisait de déserter, de quitter, de fuir. Sur le nord, à ce moment-là, plus rien ne se passait, il aurait effectivement entravé l'esclavage dans le sud. Or, au lieu de passer, disons, de prendre cette mesure, on pourrait dire, atténuante de l'esclavage, on a pris un moyen radical qui était, disons, de terminer brutalement avec l'esclavage, car la société du sud n'était pas organisée pour supporter cela. Donc on peut penser que les politiciens nord-américains, les États nord-d'Amérique, les États-Unis, ont voulu et ont cherché, disons, à provoquer les États du Sud pour qu'il y ait cette guerre qu'ils comptaient gagner grâce à leur puissance économique afin de contrôler économiquement les États du Sud. J'ajouterais que c'est la technique que les États-Unis ont toujours employée par la suite lorsqu'ils ont fait des guerres. Lorsqu'ils ont pris Cuba à l'Espagne, ils ont fait mouiller un cuirassé qui s'appelait le Maine. Hein. Ça devait être en 1887, je ne sais pas, à peu près par là. Hein. Et pendant la nuit, il a coulé. Et on a accusé les Espagnols d'avoir saboté ce cuirassé. Cette thèse a prévalu jusqu'en 1910, où on a vaguement reconnu qu'il avait dû avoir une chaudière qui avait sauté. Je pense qu'il y avait de bonnes cartouches de dynamite qui ont fait le travail. Ensuite, pour la Première Guerre mondiale, sciemment, ils ont exposé leur bateau, le paquebot, le Lusitania, pour qu'il se fasse torpiller dans un passage où les paquebots ne passent pas, hein, où il y avait des sous-marins allemands à l'affût. Et le bateau a coulé en 10 minutes, beaucoup plus rapidement que le Titanic. Il a dû faire, je crois, peut-être un peu plus de morts, et pas loin des côtes, parce qu'il était bourré de munitions, de bombes, enfin d'explosifs. Quant à la Deuxième Guerre mondiale, avec le Japon, on connaît l'histoire, ils ont provoqué les Japonais, provoqué, puis ils savaient très bien que les Japonais allaient attaquer, et à ce moment-là, ils n'ont absolument pas protégé Pearl Harbor, ils ont même fait le contraire, ils sont partis avec des navires modernes, ils les ont fait partir. On peut remonter à la guerre de Corée, également. La guerre de Corée, c'est peut-être encore autre chose, mais la guerre du Vietnam, ils auraient, paraît-il, envoyé un bateau de guerre qui se serait fait mitrailler dans les eaux territoriales, et ainsi de suite. Donc, oui. La guerre de sécession, on pourrait dire, c'était le début de cette stratégie de provocation, et ensuite de jouer la victime qui se venge et qui se défend.
Qu'est-ce que vous voulez boire, là ?
Oui, une tisane de quelconque. C'est très clair, hein ? De toute façon... ceux qui déclarent la guerre, c'est le Nord. Les États du Sud, eux, déclarent la sécession et disent « On s'en va, nous on s'en va ». Les États du Nord disent « Non, 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 vous vous en allez pas, on vous veut, vous gardez ». Alors ce que ne dit pas, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire M. MacPherson, c'est qu'il y avait un intérêt effectivement économique énorme pour le Nord, c'est que tout simplement le coton qui était filé dans le Nord venait du Sud. Voilà, et ça, il était évident qu'il était hors de question pour les nordistes de laisser filer, si j'ose dire, ce coton.
Et on a voilà. Dit qu'avec l'argent du coton, les sudistes achetaient beaucoup de biens manufacturés à l'Europe, puisque...
Tout à fait, ils importaient beaucoup, voilà, c'est ça, ils importaient beaucoup. Mais bon, il est clair que... on le voit, hein, plus personne n'est raisonnable, à un certain moment... À cause de l'esclavage sur ce terrain, les politiciens vont vraiment faire n'importe quoi. Mais ça ne devait pas automatiquement déboucher sur une guerre. Ça a débouché sur une sécession. Ouais, il aurait pu y avoir sécession. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Supposons que le Nord ait accepté la sécession. Dire, bon, bah, écoutez, tant pis, hein. Ayez vos esclaves dans votre coin, et puis nous, on aura notre modèle économique différent, etc. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait pu avoir effectivement deux États différents, deux États-Unis différents, les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud. Puis on aurait pu aussi avoir un esclavage qui serait mort de sa belle mort, de sa tranquille mort, sous la pression catholique et protestante. et puis sous la pression moderne, et puis tout simplement des États qui auraient regagné peu à peu le giron d'une union complète. Enfin, il y avait un tas de figures possibles. Il est certain que la guerre était absolument évitable. Ben, c'est comme ça. Et le résultat, indépendamment des 700 000 morts, le résultat, effectivement, c'est un modèle économique qui, aujourd'hui, s'impose au monde. Hein. Voilà. Avec même des... avec qui a écarté, qui a éjecté, littéralement parlant, qui a éjecté le modèle aristocratique, qui était celui de la France d'avant la Révolution, de la Russie d'avant la Révolution, donc des États-Unis avant la Révolution, d'une partie des États-Unis avant la Révolution, et qui malheureusement n'a coexisté et qui ne coexiste aujourd'hui qu'avec des systèmes tels que celui de la Chine ou de la Russie, des systèmes communistes. On peut le regretter, effectivement. On peut le regretter, mais c'est extrêmement intéressant de voir qui sont ces gens aujourd'hui qui veulent faire les gendarmes de la planète, qui aujourd'hui sont toujours persuadés qu'ils ont une destinée manifeste. Moi, j'ai rien contre les Américains. Je connais un Français qui habite aux États-Unis. Lui aussi, il trouve ça très bien, la destinée manifeste. Oui, ils sont destinés à conquérir l'espace, à faire régner leur paix économique sur la planète, etc., etc. C'est clair. Et c'est vrai que vous parliez des provocations. Moi, j'ai été étonné, il y a quelques mois en arrière, dans le courant de l'année 2007, que malencontreusement, alors que visiblement, il y a un petit État là du Moyen-Orient qui en a contre l'Iran, tout d'un coup, il y a un destroyer anglais, oui, un destroyer anglais qui a franchi les eaux territoriales iraniennes. Alors ça, c'est vraiment malencontreux. Hein. Bon, heureusement, les Iraniens n'ont pas perdu la tête, ils ont fait prisonnier, gentiment, ça allait maltraiter les Anglais. Mais ça aurait pu dégénérer, cette chose-là, imaginez-vous. Parce qu'après tout, les Iraniens ont franchi leurs eaux territoriales. C'est leur droit d'arraisonner le destroyer, de faire prisonnier, ça allait maltraiter les Anglo-Saxons qui sont là. Et puis, ça aurait pu mal tourner. Ça aurait pu mal tourner, cette affaire. Si les Iraniens avaient perdu la tête. Hein. Puis aujourd'hui, regardez Madame Calmireille, qui se trouve en butte avec le lobby des mêmes gens de ce petit pays. Hein, c'est terrible. Il ne faudrait pas qu'on la pende comme Saddam Hussein. Ah, c'est gentil. Vous avez vu la publicité, là, c'est marrant. Hein. La publicité pour la vodka. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la carte de 1830, que c'est pas une carte inventée. C'est la carte de 1830 où on voit donc le qui prend tout ça, enfin le Texas, pardon, le Mexique, qui recouvre tout ça. Ouais. Et ça plaît pas aux Américains. Hein. C'est curieux quand même, parce que y a rien de méchant dans la publicité là, en soi. Bon, ben voilà, pourquoi ça plaît pas aux Américains. Ouais. Ben pourquoi? Parce que leur destinée manifeste, c'était d'être là où c'est vert. Et ça leur plaît pas. Voilà, c'est ça qui leur plaît pas. C'est un affront.